Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon de Gamer. Donc, je suis encore avec la charmante compagnie de Monsieur Théo. Théo, comment tu vas?
Bonjour, bonsoir, je vais très bien et toi donc?
Eh bien, écoute-moi donc très bien encore une fois. Aujourd'hui, c'est PUBG, le jeu du jour, ça va être PUBG.
Yes.
PUBG, le petit diminutif de Players Unknowns Battlegrounds, donc le titre un petit peu à rallonge pour un jeu qui est du coup un Battle Royale, pour présenter un petit peu. C'est un jeu qui est développé et édité par PUBG Corporation, filiale de Bluehole, voilà pour ceux que ça intéresse. C'est sorti en 2017 et c'est disponible sur console, PC et mobile. Ils ont sorti aussi PUBG Mobile. Et du coup, pour présenter un petit peu le jeu, écoute, je te laisse nous présenter un petit peu le jeu. Comment ça fonctionne une partie de PUBG ?
Alors, une partie de PUBG, c'est nous sommes 100 personnes qui ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Nous nous retrouvons tous ensemble dans un grand avion et nous sommes propulsés sur une carte à poil, en slip, littéralement, vraiment en slip, sur une grande carte avec juste un parachute. Nous atterrissons tous au sol, on trouve le plus vite possible quelque chose pour retourner le slip des autres, et le dernier qui en vit a gagné. Il n'en restera qu'un.
Ok, très belle présentation.
Je pense que j'ai à peu près résumé.
Très très bonne présentation. Voilà, donc l'idée, c'est alors faut savoir, c'est le jeu qui a propulsé derrière Apex Legends, c'est le jeu qui a propulsé Fortnite, c'est le jeu qui a propulsé Warzone. Donc tous les gros jeux de Battle Royale, ça vient à la base de ce jeu, lui-même inspiré du film Battle Royale qui est sorti en 2000, je crois, si je dis pas de bêtises, 2000 ou 2001.
Yes.
Et l'idée, voilà, c'est de survivre. Donc, on est largué en avion, on a une grande carte. Alors, ils ont développé plein de nouvelles cartes maintenant. Donc, il y a plein de maps différentes. Et l'idée, c'est de s'adapter, c'est de survivre, c'est de se démerder pour être le dernier survivant et de tenir dans cette phase très stressante qui s'appelle le endgame. On va revenir dessus, du coup, pendant l'épisode. Donc, pour petit rappel avant qu'on commence, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Théo, c'est explorer les leçons de business et les leçons spirituelles qu'on peut retrouver dans le jeu. Je pense que dans le jeu vidéo, et tu me diras Théo si tu es d'accord ou pas, mais j'imagine que oui si tu es là, dans le jeu il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit en business ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Les jeux ont énormément de leçons à nous transmettre et on a envie de les retransmettre en tant que gros passionné. Donc voilà, on a envie de partager ça. Est-ce que j'ai tout dit, Théo? Est-ce qu'on peut lancer du coup les premières leçons de business que nous ont appris PlayerUnknown's Battlegrounds?
Yes, on peut commencer. J'ajouterais juste qu'effectivement, on ne se rend pas compte, on prend à la légère parce que c'est des jeux. Tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, en réalité, c'est un terrain d'apprentissage monstrueux, quoi. Tu prends juste un peu de temps pour prendre du recul. Mais bon, vous êtes là, vous allez vous en rendre compte bientôt. Qui commence?
Comme tu veux, dis-moi ce que tu préfères.
Eh bien, si tu veux, je peux commencer avec mon premier point, parce que c'est celui qui m'a le plus fait marrer à découvrir. Ce point, cette pépite, pour moi, elle est dans le pouvoir de l'image de marque. Parce que dans ce jeu, il y a un item qui peut sembler anodin, mais qui est devenu un peu un symbole du jeu. C'est vraiment une légende. C'est une arme qu'on peut trouver qui est... Ouais, donc c'est une arme qui permet de se défendre au corps à corps. Et à la base, les développeurs, ils l'ont mise dans le jeu pour pouvoir envoyer les grenades, comme si c'était une raquette de tennis. Donc à la base, c'est genre pour le fun, quoi. Et elle permet également, quand elle n'est pas équipée, donc elle se retrouve dans notre dos, quand on ne l'a pas dans nos mains, elle permet de se projeter des balles, de se protéger pardon, des balles. Donc elle permet de ne pas se faire détruire les fesses. Et c'est aussi pour ça qu'elle est devenue hyper populaire. Faut savoir que les joueurs les plus expérimentés, donc même au niveau compétitif du jeu, parce que c'est un jeu qui a tellement de hype, de popularité, qu'il y a eu il y a des tournois dessus, il y a eu des tournois et avec des gros cash prize. Donc même les joueurs les plus expérimentés, ils cherchent toujours à acquérir à la poêle. Et d'ailleurs, petite anecdote, puisque tu m'as dit de l'ajouter, un joueur a testé cette arme jusqu'au bout et il a fait une expérience avec d'autres joueurs. Donc une cinquantaine de joueurs lui ont tiré dans le dos alors qu'il avait la poêle. Et il n'est pas mort. Donc, c'est dire à quel point cette arme, cette capacité de protection est très, 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 très balèze. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette capacité de protection du QQ, hein, elle n'avait pas été du tout prévue par les développeurs. C'est un bug. Mais quand ils se sont rendus compte à quel point c'était populaire, ils ont décidé de garder ça, parce que personne ne s'en plaignait, en fait. Et c'est comme ça que la poêle est devenue un véritable symbole du jeu. Donc c'est un des éléments qui distingue PUBG des autres jeux du genre. On peut la voir sur les miniatures, sur la façon dont on en parle. Tous les autres jeux du type survival de ce genre, ils n'ont pas cette fameuse poêle magique. C'est vraiment un gros emblème. Et pour moi, si tu parviens à créer des symboles comme ça dans ton business, tu auras forcément des avantages injustes face à ta concurrence et surtout un vrai moyen de créer un lien unique avec ton audience. Parce que quand vous arrivez à connecter sur un truc, en plus là c'est un délire, c'est génial, bah, vous avez tout gagné, quoi. Ça crée vraiment un lien de confiance, un lien qui donne envie à l'audience de... Elle est comme avec toi, elle est connectée avec toi via ce truc, quoi.
Alors, tu sais que la poêle, comme tu dis, quand tu butes 100 mecs avec, parce que c'est une arme que tu peux utiliser aussi en corps à corps, tu gagnes la poêle d'or. Et tu peux du coup amener une poêle d'or. Ouais, c'est un truc de malade. Ils ont vraiment poussé le délire à fond. Ouais, c'est une dinguerie. C'est vrai que, comme tu dis, si t'arrives à associer l'image de ton business à un objet aussi bête qu'une poêle, et que les mecs ont fait des millions juste avec ça, nous, petits accompagnants, petits entrepreneurs, si on arrive à associer la puissance de notre activité avec juste un objet comme ça, avec un gimmick qui va être un gimmick différenciant, et je reviendrai aussi sur la poêle dans les leçons un peu plus spirituelles, bah tu vas forcément développer de l'image de marque puissante, en fait. Donc ouais, je suis aligné avec ce que tu dis, et je pense que c'est important pour un entrepreneur de se demander comment il peut, même si c'est pas avec un objet, mais comment il peut avoir ce petit détail en plus qui fait que... Et quelque chose que j'ai développé aussi au niveau du leadership, j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs, et qui va un petit peu avec cette idée d'avoir ce gimmick personnel, c'est dans le vocabulaire. Un des conseils que je donne à mes clients, moi, pour la partie magnétique, etc., la partie attractivité, c'est de toujours avoir un vocabulaire qui sont les seuls à employer. Tu vois, si tu es le seul entrepreneur qui emploie tel ou tel mot, tu vas être reconnu pour ces mots-là. Et dès que tu vas entendre ce mot, tu vas dire « Ah ouais, c'est lui qui dit ça sans arrêt ». Et moi, pendant un temps, tu vois, il y a beaucoup de posts, là, je le fais plus, mais il y a pas mal de posts où je disais, c'est pas Sandrine Kebab ou c'est pas le maître kebabier, des trucs comme ça, tu vois. Et peu d'entrepreneurs utilisaient ces mots-là. Et parce que moi, je les utilisais, bah, dès que tu voyais ce mot sortir, surtout dans la France de 2023, le mot kebab, bon, voilà, il est là. Bah, du coup, tu as ce rappel naturel, en fait, à la personne qui t'a imbriqué ce truc-là. Donc, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je vous invite à faire un truc. Prenez-vous un petit carnet et notez des mots que vous êtes les seuls à utiliser pour avoir votre vocabulaire personnel. C'est super, super important. Est-ce que Théo, tu nous as tout dit sur la poêle? Est-ce qu'on est bon sur ce point-là?
Oui, oui, tout ouais. À fait.
Ok, parfait. Bah, écoute, je vais enquiller du coup avec la première leçon business que j'ai pu apprendre du jeu. C'est pas dans le jeu directement, c'est plutôt dans sa stratégie de lancement, parce que je regarde aussi comment le marketing du jeu fonctionne autour du jeu lui-même, et c'est comment ils ont utilisé un lancement en accès anticipé. PUBG, il faut savoir que le jeu, il est sorti buggé, il est sorti dégueulasse, il est sorti vraiment moche, il est sorti pas cassé. On n'est pas sur un jeu façon Bethesda à ce niveau-là, mais ça reste quand même un jeu qui est sorti dans un état pas terrible, mais en accès anticipé. Et en fait, l'accès anticipé, ça permet aux développeurs d'impliquer les joueurs dès le début du développement du produit. Et donc, ça va permettre quoi? Ça va permettre que les développeurs vont recueillir en fait un max de commentaires, un max de feedback, un max de retours. Et ça va créer aussi du bouche à oreille parce que les gens vont se dire « Ah ouais, j'ai testé ce jeu-là, c'était sympa, etc. etc. » Et je pense que dans le domaine du business, quand tu commences à impliquer tes clients dans le process de développement d'une offre, il se passe des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou parce que tes clients vont être partie prenante en fait, du développement de ce que tu vas proposer. Et parce qu'ils sont partie prenante, ils vont se sentir beaucoup, beaucoup plus impliqués. Donc, il y a déjà beaucoup plus de chances qu'ils achètent une fois que le produit il est terminé. Et surtout, il sera adapté à ce que les gens qui ont le besoin que tu satisfais vont demander. Et donc, tu ne peux pas te louper, tu peux pas ne pas faire de vente. Ou alors, tu as un problème dans ta façon de le vendre, etc., dans ton marketing. Mais quand tu trouves une manière d'impliquer les gens, non pas dans le produit, mais dans son développement, alors forcément, les gens, ils vont se dire « Ok, ça mérite mon attention parce que il y a un vrai focus qui est fait sur moi en tant qu'utilisateur. » Donc, une leçon que je donnerais du coup aux entrepreneurs par rapport à ça, c'est de se dire comment je peux faire en sorte que dans mon lancement, j'implique directement les clients. Ça peut être en leur posant des questions, ça peut être avec une bêta test, une alpha test aussi, si vraiment le truc il a plusieurs phases de développement. Ça peut être sur voilà, des petites sessions de test de tout le monde, des sessions de ce qu'on appelle la bêta publique. Il y a plein de choses possibles. Et si des énormes développeurs font ça sur leur jeu, je pense notamment récemment à Diablo qui a fait des grosses, grosses phases de test, ils ont testé leur serveur, etc. Ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, vont consommer du produit, vont déjà avoir, entre guillemets, du résultat. Dans le cadre du jeu vidéo, ça va être du plaisir. Ils vont en parler, ils vont le communiquer et ça va mettre beaucoup plus de visibilité sur le produit lui-même, juste parce qu'il est en train de se développer sous tes yeux. Donc voilà, moi, je vous recommande, les amis, de mettre en priorité le client en avant et de le faire dès le développement, dès les premières idées, pour commencer à avoir quelque chose de viable, de puissant, et pas avoir besoin de, comme on a pu le faire, je pense, tous les deux, lancer une offre et attendre qu'elle soit terminée pour avoir des retours, alors que c'est bien d'avoir des retours avant même qu'elle soit terminée pour pouvoir l'adapter pendant le truc, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est clair. En tout cas, moi dans notre secteur, quand on crée des programmes, je trouve que c'est plus porteur et ça donne plus de, comment dire, t'as plus d'énergie, je trouve, à le faire. Parce que je me rappelle de plusieurs fois avoir fait l'erreur de tenter de créer un programme puis le vendre, et puis quand tu te rends compte, en fait, ça correspond à personne. Tu vois le temps que t'as passé et que tu perds, et que t'as perdu du coup, c'est terrible. Donc vraiment, si t'arrives à impliquer les gens dans la création de tes propositions, de tes offres, c'est tellement de valeur ajoutée d'un coup, puis tu gagnes tellement de temps.
De ouf. Écoute, pour moi, c'est bon. Si tu veux enchaîner, on t'écoute.
Ouais, je vais enchaîner. Ah, attends. Juste, je regarde. Il y a personne qui demande, mais vous êtes où ? Est-ce que le live, tu l'as bien mis en public ?
Écoute, oui, je crois bien. Moi, je l'ai sur mon mur. Je ne sais pas si...
Parce qu'il y a une personne qui apparemment ne voit pas le live.
Alors, comment ça se fait ? Est-ce qu'il regarde sur mon compte ou est-ce qu'il regarde sur ton compte ?
Je ne sais pas. Je pense que cette personne vient de mon compte.
Peut-être lui dire d'aller sur le mien et de regarder directement depuis le mien. Parce que moi, j'ai vu des gens passer déjà, donc je pense que... Ouais, je pense qu'il faudrait essayer depuis directement mon compte, ouais.
Ok, je vais lui dire.
Et comme ça, après, je te laisse enchaîner du coup sur la suite pour ceux qui nous écoutent.
Oui, je vais enchaîner
en podcast.
Alors, je me remets dedans. Alors, avec quoi j'enchaîne ? La communication. La communication qui est vitale. Dans PUBG, on peut jouer en solo, en duo ou en équipe. Et il est essentiel de bien communiquer avec son équipe ou son duo pour réellement profiter de la force de l'équipe. Parce que sinon, c'est juste du solo à plusieurs. Et c'est complètement différent. L'expérience de jeu est complètement différente quand tu as des coéquipiers qui te disent « Ah, il y a du bruit à tel endroit, ah, il y a des armes ici et là, ah, les ennemis sont là-bas. » De bénéficier des conseils, de l'expérience des autres, de leurs atouts aussi, quand ils sont meilleurs avec certains équipements que toi, et donc ils vont s'en servir mieux que toi. Donc tout ça est vraiment vital. Et c'est pareil dans le business. À un moment, quand tu grandis, tu finis par soit déléguer quelques petits trucs, soit monter une équipe, et beaucoup se rendent pas compte à quel point la communication est essentielle. Moi-même, la première fois que j'ai tenté de déléguer quelque chose, au début, je me suis contenté de lui dire les missions que je voulais qu'il accomplisse. Et au final, je bénéficie juste un peu de sa force, mais c'est comme si on était tous les deux en solo. J'ai pas réellement bénéficié de ce dont il était capable, de ses conseils, de nos interactions. Et du coup, ça nous a mené nulle part. J'étais pas satisfait, parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Et au final, il a fait bêtement et méchamment ce que je lui demandais. Et j'ai arrêté la collaboration parce qu'en fait, elle a pas permis de développer quoi que ce soit. Là, j'ai pas repris depuis de personne, mais j'ai déjà accompagné des équipes et je vois bien la différence entre une équipe où ça communique réellement et ça crée vraiment une cohésion et une équipe où il y a limite, c'est des mercenaires, quoi. Chacun est juste excellent dans son truc, au final ça stagne, il n'y a pas un réel épanouissement, l'entreprise en pâtit forcément. Donc vraiment la communication, elle est vitale, et j'ajouterais même une bonne communication, c'est pas juste se dire bah, dans le cas du jeu, tiens, les armes sont ici ou là. C'est aussi créer du lien. C'est aussi ça qui ajoute un plus. On est des humains. La qualité du rapport humain, elle renforce aussi ce que tu es capable de faire avec l'autre. Sinon, tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, tu es un peu timide, etc. Tu n'oses pas te dévoiler. Alors que si tu y vas à fond, bah, tu peux te dévoiler, tu peux être soutenu par l'autre, tu peux m'être élevé par l'autre et tu peux l'élever aussi. Donc vraiment, entrepreneuriat, communication vitale. Mais,
De dingue.
et en vrai, pas que en équipe et en petite coop, quoi, même quand tu communiques tout court.
Ah, c'est clair. Bah, s'il n'y a pas de communication, de toute façon, que ce soit dans le jeu, que ce soit en dehors du jeu, que ce soit en business, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta vie, que ce soit au travail, peu importe, t'es mort. L'humain, il
C'est vrai.
survit parce qu'il communique et il y a tellement de gens qui restent dans leur grotte, tellement d'entrepreneurs qui font ça, qui font cette erreur de je reste dans mon coin, je fais mon travail, je veux pas trop qu'on m'emmerde. Je veux pas trop avoir affaire aux gens. Et ces gens-là, en fait, bah, ils sont voués à s'éteindre parce qu'il n'y a pas ce travail de communication qui est fait et qui fait que bah, forcément, ils disparaissent. Et ça se voit aussi dans PUBG. Combien de fois, moi, je suis tombé dans des équipes où parler n'est pas pris en compte. Les gens, ils coupent leur micro ou alors, pire que ça, ils laissent leur micro allumé, t'entends toute leur vie, mais ils ne communiquent pas. On les connaît. Et en fait, c'est des gens, tu peux pas aller loin avec eux et tu le sais. Et moi, très souvent, les parties que je faisais comme ça avec des inconnus, quand je voyais qu'au niveau du micro, il ne se passait rien, la première chose que je faisais, c'était je les laisse partir, ils font leur partie. Et moi, je pars tout seul et je fais une partie en 1 contre des équipes de 4. Et je faisais toujours des meilleurs résultats tout seul contre des groupes de 4 qu'à 4, mais avec 4 mecs qui étaient mal coordonnés, qui faisaient un peu des conneries. Et je pense qu'effectivement, soit tu bosses seul si tu n'es pas du genre communication. Soit tu fais en sorte que ton équipe elle soit vraiment soudée, que tu fasses vraiment des trucs. J'y reviendrai de toute façon dans la partie spirituelle, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que tu prends le cas classique de PUBG, tu arrives avec ton équipe dans une clairière, tu as une maison devant toi, tu sais que tu dois rentrer parce que tu as besoin d'équipement et que la zone elle commence à se refermer sur toi. S'il n'y a pas la communication de j'ai vu un mec courir à la fenêtre, j'ai vu un reflet de lunettes qui est en train de me viser. J'ai vu un mec courir, j'ai vu un buisson bouger, j'ai vu un truc comme ça. Tu vas te faire déglinguer, tu vas perdre ta partie en fait. Et c'est dommage, tu vas rester dans des classements où tu vas être dans le top 70, dans le top 80 et tu vas pas avancer dans tes parties. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de communiquer à fond et savoir où est-ce que tu vas avec ton équipe et avoir cette même manière d'aller là où tu as envie d'aller quoi. Donc ouais, complètement aligné avec ça. Est-ce qu'on est bon là-dessus?
Yes, monsieur.
Ouais, ok, top. Alors j'enchaîne avec. Je vais faire un petit peu un pont avec ce que tu as dit. Tu parlais de cette idée de communiquer, donc ça rapproche un petit peu ça de la coopération. Et moi, un truc que ce jeu m'a appris, c'est qu'il y a vraiment en jeu, comme en business, il y a un vrai équilibre entre la compétition et la coopération. Parce que qui dit coopération dit que la coopération va être en compétition avec une autre coopération en face, d'une certaine manière. Donc quand tu es en équipe avec des entrepreneurs, il y a une coopération, mais tu es en compétition, entre guillemets, avec la coopération du concurrent, en fait, entre guillemets. Et le gameplay, en fait, de PUBG te montre ça, te montre que dans un contexte très compétitif, c'est par la coopération que tu gagnes. Et dans le business, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu trouves cet équilibre entre mon équipe, elle a une coopération qui est très soudée, on travaille ensemble, on fait vraiment des dingueries ensemble. Et on est prêt à se frotter à la coopération d'une autre équipe, alors là, tu as des chances de gagner le jeu du business. Et l'idée, c'est de se dire, bah, un peu comme le dit le proverbe que j'ai appris dans Alien versus Predator, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et si bah, tu as une équipe et tu as ces idées, ces personnes-là qui vont, par exemple, le cas que je voulais sortir, c'était, tu sais, tu joues en équipe, même si tu joues en duo. Tu arrives avec ton pote et tu vois une équipe en face et tu es sur le point de l'attaquer. Et en fait, tu vois qu'elle se fait attaquer par une troisième équipe qui n'a rien à voir. Et tu vois deux équipes en train de se faire la guerre. Et toi, tu es là, tu te dis, OK, bah, du coup, il y a des gens en face, ils sont en train de me rendre service, ils ne le savent pas, mais ils se font la guerre entre eux. Et en fait, ils sont coopérants avec toi sans même le savoir. Et je pense qu'en business, c'est la même chose, c'est de te dire, comment est-ce que je peux faire en sorte de gagner la compétition contextuelle du business, parce que le business, bah, ça reste un environnement très compétitif. Comment je fais en sorte de profiter de de ce contexte-là, mais en même temps, de le faire en utilisant mon esprit de coopération. Et je pense qu'en business, il y a vraiment cet aspect de comment est-ce que je fais pour qu'il y ait un véritable équilibre entre compétition contextuelle et coopération d'équipe. Quand ton équipe, elle est coopérative dans un environnement de compétition, elle est beaucoup plus motivée, elle est beaucoup plus encouragée. Et surtout, ça va titiller ceux qui sont un petit peu profil tueur sur la typologie de Bartel. Et ça peut carrément t'aider en fait à sortir du lot quand tu as cet aspect coopératif. On est bon pour ce point.
Ouais, très propre. Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus sur la typologie de Bartel ici ou...
Bah écoute, je peux, ouais, rapidement, la typologie de Bartel, en gros, c'est il y a quatre typologies en fait dans la façon de jouer. Il y a quatre modes de jeu, entre guillemets, dans le business. Et en fait, chaque entrepreneur va s'amuser d'une manière différente. On a les tueurs qui sont très dans la compétition, dans la guerre, dans le classement, je suis meilleur que toi, etc., dans la discipline, dans la souffrance. On a les accomplisseurs qui sont plus dans la performance, mais la performance personnelle, le dépassement de soi, ce genre de choses. On va avoir les socialisateurs qui vont beaucoup plus s'amuser en partageant, en échangeant, en coopérant, en faisant ce genre de choses. Et on a les explorateurs, c'est les gens un petit peu perdus qui sont là pour profiter du paysage, mais qui créent quand même des grandes choses par cet amour de l'exploration. Voilà pour le... Bon, c'est très introductif hein, ce que j'ai dit, mais on fait ça pas mal en consulting, l'exploration des typologies. C'est super important de les connaître, je pense. Donc voilà.
Il y a même, tu as même des épisodes de podcast qui en parlent de façon plus approfondie, il me semble.
En effet, en effet.
Donc, vous savez où trouver plus d'infos. Alors, et ben dans ce cas, j'enchaîne. Alors, un truc que j'ai trouvé très cool dans ce jeu, la pépite que j'ai là, c'est de pas laisser le momentum baisser. Quand on lance une partie, il y a un temps de chargement, parce que forcément, il faut trouver 100 joueurs. Et on se retrouve tous sur une carte un peu vide. Il y a des bâtiments, enfin c'est un peu aléatoire ce qui peut être généré dessus, mais en tout cas c'est une carte sur laquelle on peut bouger, on peut jouer avec des balles de foot, on peut commencer à se tirer dessus, on peut utiliser des danses, on peut parler au micro. Donc c'est un temps qui permet de s'échauffer, qui commence à te mettre un peu dans l'atmosphère du jeu, et ça peut te permettre de commencer à te concentrer. En tout cas c'est vraiment une phase où tout le monde se retrouve et se chauffe quoi. Et elle est très bien cette phase, parce que sinon attendre 100 joueurs sans savoir quand ils arrivent, etc. Enfin, ça peut être long, en fait. Juste 100 personnes, quoi. Ça pourrait être très long et ça pourrait lasser des joueurs. Je pense même qu'il y en a qui pourraient quitter. Parce que, voilà, tu viens pour jouer, t'achètes un jeu, c'est pour jouer maintenant. C'est pas pour attendre 107 ans qu'il y ait 100 mecs en face de toi. Enfin, 99, pardon. Et dans le biz, bah, c'est pareil. Quand tu t'occupes de tes clients, quand tu fais des lancements, faut regarder comment tu peux garder l'attention et la concentration des clients. Moi, je le vois, par exemple, si je fais du coaching de groupe, je fais très attention au temps que je passe avec chacun, parce que pendant que je passe avec un, bah, y a les autres du groupe qui attendent. Donc, comment je peux les garder occupés? Donc, ça peut être en mettant une intention au début sur le coaching de groupe, ça peut être en donnant un exercice de fond, comme ça chacun peut le faire pendant qu'ils écoutent. Mais c'est comment tu gardes l'attention, comment tu gardes la concentration pour que les gens y restent canalisé. C'est encore plus important sur un lancement, puisque si tu lances un beau truc, que tu chauffes les gens un jour, mais que tu les chauffes plus derrière et que tu tentes de vendre en ayant laissé cette latence où ça baisse, tu perds forcément des gens. Et c'est dommage, parce que tu as forcément, en tout cas moi je crois que tu as une proposition de qualité à leur apporter. C'est pour moi aussi une façon de prendre soin d'eux. Ils t'accordent de l'attention, ils t'accordent de leur temps. Les garder occupés, les occuper, les divertir, les animer leur vie, bah c'est aussi une façon d'en prendre soin. Donc vraiment, regardez comment tu peux garder en toutes circonstances le momentum, l'attention, la concentration de prospects ou de clients.
Fou. Et si tu regardes, c'est un vrai challenge, même dans l'industrie du jeu vidéo. Y a qu'à regarder, c'est assez marrant à faire, c'est de te dire comment est-ce que le studio, dans tel ou tel jeu, ils s'occupent des menus de chargement. Comment les menus de chargement ils sont conçus pour que le joueur ne se barre pas sur autre chose. Et moi, il y a plein de jeux où du coup, je ne vais pas citer de jeux en particulier, mais il y a plein de jeux où tu es sur ton téléphone parce que tu attends que le chargement termine Et du coup, vu que tu es sur ton téléphone, on connaît Facebook, on connaît Instagram, on connaît YouTube, bah, on se perd sur les réseaux et au final, on n'est plus dans le jeu. Et quand on revient sur le jeu, on est là, ah ouais, c'est vrai, j'étais là-dessus. Alors que tu étais déjà pris dans quelque chose, tu vois. Et il y a deux manières que je vois en ce moment qui se développent beaucoup, notamment grâce à la PlayStation 5 et au nouveau PC, carte graphique, etc. Tu as les chargements, alors les plus petits chargements maintenant, c'est des chargements où tu as une liste de conseils texte que tu peux faire défiler pour avoir un peu de lecture en attendant. Tu as les chargements cachés. Ça, je trouve ça pas mal aussi. C'est des chargements où tu vois pas que tu es en chargement parce qu'on te colle une petite cinématique. Par exemple, dans les voyages rapides, tu regardes Red Dead Redemption 2. C'est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Quand tu fais un voyage rapide sur Red Dead, ce qui se passe avec Red Dead, c'est... Salut François. Il n'y a pas de menu. Il y a juste toi en train de te poser dans le train et de profiter du paysage. Et en fait, pendant que toi, tu crois que tu es en train de jouer, tu as un chargement. Et je suis d'accord avec toi parce que quand tu perds le momentum avec tes clients, avec ton audience, même avec tes participants, enfin moi, j'appelle ça des joueurs maintenant, les clients qui travaillent avec moi, quand tu perds le momentum, tu perds aussi le fil mental et tu perds les ressources que tu peux avoir en faisant ce que tu es en train de faire. Et PUBG fait ça très bien avec ce que tu appelles, ce que tu as dit, le momentum du coup. C'est ce côté lobby, en mode on connecte tous les joueurs à un endroit pour être sûr que tout le monde soit bien connecté. Et une fois que tout le monde est connecté, on lance un petit chronomètre. Donc ça, c'est pareil aussi, c'est très engageant de mettre un petit compte à rebours, tu sais, en mode il reste 35 secondes avant le décollage. Et t'es plus dans j'attends le chargement du jeu vidéo. Tu es dans on va bientôt embarquer pour sauter sur je sais plus comment elle s'appelle la map du jeu, mais on va bientôt embarquer, on va bientôt y aller. Et bientôt, on saute en parachute et on commence le Battle Royale, tu vois. Et je trouve ça vraiment bien comme approche, cette idée de on cache les moments chiants, on les supprime pas parce qu'il y en a besoin pour que l'expérience soit bien, mais on fait en sorte que ça soit agréable aussi pour le joueur. Et comme tu dis, je trouve ça vraiment bien ce que tu as dit, cette idée de pour moi, c'est une façon de prendre soin d'eux, je trouve ça très vrai, parce que tu prends soin de tes joueurs en leur donnant quelque chose à faire en attendant que tu puisses leur proposer la ressource dans son entièreté. Donc, complètement aligné avec ce que tu as dit. Ouais. Très, très
Merci.
vrai. Est-ce que tu es bon sur ce point-là?
Yes, je t'en prie.
Ouais,
À ton tour.
ok. Alors, du coup, on va enchaîner sur une partie un peu plus émotionnelle. La gestion de l'incertitude et de la pression. Parce que PUBG, c'est un jeu qui s'est créé quand même une sacrée, sacrée, sacrée tension. Tu dois tout le temps prendre des décisions et prendre des décisions rapides. Quand tu prends les mauvaises décisions, généralement, tu meurs et ton équipe te rejoint en enfer. Et le jeu, en fait, te force un petit peu à apprendre à faire ça, à gérer l'incertitude, à gérer les moments de stress, à gérer les moments de panique. Parce que voilà, quand t'es, je sais pas, déjà, de base, les développeurs, ils ont dit ce truc, ils ont dit, on va leur mettre une zone qui va se refermer pour les forcer à se rapprocher les uns des autres et à être de plus en plus en danger jusqu'à la fin de la partie. On pourrait appeler ça aussi un momentum, jusqu'à ce qu'on appelle le endgame. Et à la fin, tu as ce qu'on appelle aussi la end zone. Donc la end zone, c'est quand la limite, elle est vraiment ultra petite et que tu as genre 10 personnes et que tu as 10 mètres carrés et que tu es obligé de te battre, en fait. Et toute la partie PUBG, c'est, en tout cas pour les pro-gamers et ceux qui jouent de manière très sérieuse à ce jeu-là, toute la partie, c'est je prépare mon endgame, en fait. Ils ont cette préparation. Et leur manière de gérer l'incertitude et la pression, c'est de se dire comment je fais pour arriver le mieux équipé possible, le mieux préparé possible à la merde qui m'attend à la fin. Et quand tu fais ça en business, quand tu apprends justement à gérer ton incertitude, à gérer ta pression, à savoir prendre des décisions qui ne sont pas sous le coup de l'émotion, ça te fait un putain d'atout, en fait, pour la partie croissance, la partie succès de ton business. Et ce que je vois surtout, et ça rejoint beaucoup ce que je peux faire dans mon activité, c'est que quand tu fais un top 1 sur PUBG, donc que tu as buté, enfin que tu as survécu à 99 autres personnes qui sont là pour la même chose que toi, et que toi, tu as été le dernier, généralement, c'est parce que tu es celui de la partie qui a été le plus calme et qui a pris le plus de plaisir. C'est un truc dont je me suis rendu compte. J'ai fait des parties avec des gens qui mettent de l'enjeu sur le top 1, tu vois. Ils sont en mode, ouais, faut qu'on se prépare, faut qu'on se bouge, faut qu'on se dépêche de s'équiper, il faut trouver un casque, faut trouver une arme, faut trouver un truc, etc. Donc, ils perdent un temps fou à s'activer, entre guillemets, là-dessus. Et il y en a d'autres qui sont en mode, ouais, c'est bon, j'ai 30 balles dans mon chargeur, ça en fait une par tête, pas de problème, je vais gérer. Et parce qu'ils ont ce calme et surtout, ils ont ce plaisir et ce détachement de l'enjeu, tu arrives en top 1 avec eux, donc tu es en mode bah, top 20, top 15, top 10, tu vois que la pression elle commence à monter. Bah, les mecs qui sont habitués à faire des top 1, ils sont pas stressés, ils sont super détentes en fait. Ils disent ah ouais, bon toi tu te mets là, moi je me mets là, et vas-y, donc dès qu'ils vont arriver, on va les fumer, pas un problème. Et ils sont pas stressés. Et parce qu'ils sont pas stressés, ils performent. Et je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre ne te stresse pas, juste fais comme tu sais faire et prends du plaisir. Et généralement, quand tu fais des choses comme ça en business, il se passe des dingueries. Quand tu lances une offre que tu mets pas d'enjeu et que juste tu loues à lancer ton offre, tu fais forcément des résultats. Parce que tu as pris du plaisir et parce que ça se ressent et parce que ça se communique. Et je trouve ça vraiment cool en fait de se dire le end zone de PUBG, c'est une vraie leçon business à part entière de plus t'es déstressé dans un moment qui est conçu pour de la pression, plus tu as des chances d'être le meilleur dans le truc en fait. Tu prends, je sais pas moi, tu prends 10 speakers TEDx, voilà, on va dire TEDx pour que les gens comprennent un peu. Tu es dans un environnement stressant parce que tu vas parler en public, tu vas être écouté, tu as, je crois, 12 ou 14 minutes maximum pour faire tenir ta conférence et tout. Celui qui s'amuse le plus et qui est le moins stressé, il fera la meilleure conférence. Pareil dans une offre, pareil dans une sélection de clients, pareil dans l'écriture d'un bouquin, dans la création d'un projet, dans peu importe. Quand tu n'es pas stressé, tu es le meilleur en fait. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
Ça me parle bien. Je vois, on a déjà un peu discuté, mais je vois très bien en business quand je lance des offres et que j'essaye de planifier un lancement stratégique. Chez moi, ça a tendance à le rendre très sérieux. Du coup, il y a du stress, il y a des attentes, ça marche pas. Et quand j'improvise, je me fais non, juste un poste, je m'en bats les couilles, limite, parfois, je suis pas loin d'insulter des gens au passage. Tout va bien, je signe des trucs, mais moi je me suis tapé des barres et à chaque fois je me suis toujours pas habitué à ça. Je suis surpris à chaque fois que ça marche comme ça. Je ne peux qu'encourager des gens à oser le faire. C'est très vrai ce que tu dis. D'ailleurs, mon prochain point va rebondir sur le tien, mais je te laisse finir si tu as
des choses. Vas-y, on est bon.
Moi je vais parler d'adaptation. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, on prépare le endgame, mais c'est un jeu où tout peut arriver. Trop de choses peuvent arriver et parfois en même temps, il peut y avoir des attaques à distance, il y a la zone qui rétrécit quoi qu'il arrive, il peut y avoir un véhicule qui te fonce dessus, tu peux être à court d'essence dans ton véhicule, parce que oui, ça c'est réaliste au point qu'il y a l'essence à gérer dans tes véhicules. Il me semble qu'il y a parfois des bombardements aussi, oui c'est ça, il y en a dans PUBG. Ouais. Donc des trucs qui tirent du... et t'as intérêt à t'informer sur où ça va tomber pour pas être dans la zone en question. Donc, si t'as pas de capacité d'adaptation, t'es condamné à la défaite. C'est obligé. Trop de choses peuvent arriver, les parties ne se passent jamais de la même façon, ça change tout le temps. Et pareil, si t'as une équipe, c'est pareil. La diversité des personnalités et tout peut faire que tout peut se passer de façon totalement différente. Si t'es pas capable de t'adapter, c'est la mort. Et pour moi, dans le business, c'est pareil. C'est-à-dire que plein de choses peuvent arriver. Des tas d'imprévus peuvent nous tomber dessus. Ça peut être une surprise sur SAF. Celle-là, on les a toutes à un moment ou à un autre. Un lancement qui se passe pas comme prévu. Un partenaire qui finalement interrompt ce partenariat avec toi. Un client qui lâche en un groupe d'activité. Enfin bref, des tas de choses peuvent arriver. Et si t'as pas de capacité d'adaptation face à ça, si t'arrives pas à rebondir, si t'es pas capable de rebondir, ton entreprise, elle prend forcément un coup et c'est un coup qui peut être fatal. Pour moi, j'encouragerais les gens à essayer de... Comment dire ? J'en profite pour rajouter, parce qu'à la base, je l'avais pas vu comme ça, mais vu que tu viens de parler du côté jeu, mais voir ces situations où il faut s'adapter comme un jeu, comment je peux réussir à rebondir ? Réussir à rebondir, c'est comme une forme de jeu. Enfin, c'est la balle magique. c'est comment tu peux rebondir dans une situation, parce que c'est pour moi, c'est plus ça qui fait de toi un bon entrepreneur que vraiment tes compétences. Parce que si l'entrepreneuriat était tout lisse, oui, ce serait tes compétences qui seraient vraiment le socle du truc. Mais un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir en toutes circonstances, quoi.
De ouf. Et c'est vrai que tu as carrément cette notion d'incertitude pendant toute une partie de PUBG. Tu as cette notion de tu sais pas ce qui va t'arriver du tout pendant toute la partie. Et c'est ça qui est fort aussi avec ce jeu, c'est qu'ils ont réussi avec une seule et même carte, qui est quand même assez petite une fois que tu as fait une dizaine de parties, À chaque fois, chaque partie, c'est différent, en fait. Il t'arrive toujours des trucs dans toutes les parties. Donc, tu as des parties où c'est un peu walking simulator. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Tu fais 5 bornes. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu prends une balle qui vient de nulle part. Voilà, un mec qui t'a snipé à 1 km. Et tu crèves et c'est fini. Et tu sais pas comment. Et tu as des parties où tu fais une grosse, grosse guerre tout le long. C'est super intense. Tu pars en véhicule. Il t'arrive, je sais pas combien de péripéties. Et le business, tu as raison, c'est la même chose. C'est que tu as besoin d'avoir ce côté adaptabilité. Tu parlais tout à l'heure des zones de bombardement, des zones rouges. Ça peut être carrément l'URSSAF. Ça peut être carrément l'URSSAF qui te dit, voilà, ben, là, tu es en zone rouge. Il y a plein de trucs qui vont te tomber dessus. Donc, ça peut te tomber dessus, te toucher, te blesser gravement ou te tuer. Mais si ça ne te tue pas, continue à courir, en fait. Continue à courir et fonce et va te cacher dans une forêt, dans une baraque ou peu importe. Et c'est là aussi que ça t'apprend que une zone rouge, ça peut tomber n'importe où. En fait, ça peut tomber vraiment n'importe où. Donc, sur une année, tu peux te dire, j'ai passé 11 mois à faire des chiffres incroyables, à avoir plein de clients, avoir une équipe de fous, des projets de malades. Et la dernière semaine du 12e mois, tu prends la surprise de ta vie. En fait, tu devais 50 000 euros aux impôts, tu les avais pas, tu t'es mal démerdé, du coup, bah, tu as beaucoup de sous à sortir. Et tu es dans la sauce, en fait, parce que bah, tu l'as pas vu venir. Ou parce que bah, tu as un mec qui t'a lâché, qui ne devait pas te lâcher, qui t'a mis dans la sauce. Je prends là récemment un collègue, je te dirai ça en privé pour les noms, mais un collègue qui s'est pris un gros procès sans aucune raison apparente, parce qu'il y a un entrepreneur qui veut le faire couler. Et en fait, juste ça, tu vois, c'est une zone rouge qui est absolument impossible à prévoir et à anticiper. Tu peux quand même essayer d'anticiper en te disant, bah, j'ai de la trésorerie de côté, je peux gérer les frais, etc. Mais en termes de ce que ça va te faire mentalement, émotionnellement, ça te casse les couilles. Et du coup, bah, tu es obligé de te faire avec ça, en fait. Donc, ouais, si t'es pas adaptable, t'es pas adaptable, t'es mort, en fait. Clairement, t'as tout dit, hein. Si t'es pas adaptable, t'es mort. Ce qui, du coup, me fait rebondir parfaitement sur le point suivant, qui parle aussi de joyeuseté. Est-ce que tu allais finir sur ton point?
Oui, j'avais fini.
Ouais.
Tu peux
Bah,
remonter?
moi, ce que je voulais dire, c'était que celui qui ne sait pas où il va est voué à mourir aussi. Tu parlais d'adaptabilité, moi je parle aussi de destination. Je me rends compte à quel point PUBG, quand tu commences une partie, ça ressemble à un début de business, dans le sens où bah, tu es largué, à poil, en terrain hostile, tu t'équipes un peu avec ce que tu trouves, et la première chose, c'est planifier une stratégie et une destination. Si tu n'as pas ça, c'est impossible que tu arrives top 1, voire même, je dirais, un bon top 20, top 30. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ceux qui vont arriver top 1, ils font ce travail-là de OK, je suis tout nu, je suis dans une forêt, là-bas il y a une maison, là-bas il y a une usine, et là-bas je vois des mecs qui vont arriver. Qu'est-ce que je fais avec ces informations? Et il y a soit les gens qui vont traiter l'information, soit les mongolos qui vont courir au premier endroit qu'ils voient parce qu'ils disent bon, bah vas-y, on s'en fout, on fait la partie, on voit ce qui se passe. Et je pense qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur, à minima, que ça soit à l'échelle d'une vie ou que ça soit à l'échelle juste d'un projet, hein, mais que tu saches où tu vas, en fait. Que tu dises, OK, je sais où je vais et je sais ce que je vais faire pour y aller. Un minimum. Je sais que mon équipe, je vais la mettre dans une voiture et dans la voiture, on va partir jusque dans cette maison. Et dans cette maison, on va se barricader, on va se préparer au end zone. Celui qui fait ça, il a 1000 points d'avance sur le mec qui se dit, tiens, j'ai trouvé une calache, je vais aller foncer dans le tas et je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et tu as besoin, en tant qu'entrepreneur, d'avoir ce côté stratégique, ce côté. Ok, où est-ce que je vais avec mes projets, en fait? Quand tu écris un bouquin, combien? Et je suis intervenu, tu vois, hier, dans un mastermind d'auteurs. Et pareil, ce que je voyais comme problème récurrent, c'était j'en vois plus le bout, en fait. J'en ai marre d'écrire, ça me saoule, j'ai besoin d'une pause, etc. Normal, tu sais pas où tu vas avec ton livre. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment tu vas, etc. Et c'est pareil avec tout. Donc, pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, les amis, si vous êtes même en replay, on répondra aux commentaires. Quand tu as un projet, tu es obligé de au moins t'imaginer comment le projet va se terminer. Même s'il ne se termine pas de la bonne manière, pas grave, mais il faut que tu fixes à la fin un état de fait, que tu dises, voilà, quand j'aurai fini ce projet, voilà ce qui sera matériellement mesurable. Écrire un bouquin, bah, à la fin, je tiens mon livre dans mes mains. Lancer un programme, bah, j'ai accès à un programme en ligne. Faire un accompagnement, bah, j'ai préparé mon accompagnement. Voilà, il faut que tu aies vraiment quelque chose de tangible qui soit visualisable, représentable mentalement, ce qu'on appelle les cibles tangibles, en fait, hein, et que tu te bases sur ça pour développer une stratégie et pour avancer dans ton activité. Voilà pour ce point-là.
Ouais, c'est un peu la vision Enfin, ça, en tout cas, c'est dans l'entrepreneuriat, on parle pas mal de ça. C'est hyper important de l'identifier. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vois bien, personnellement, la différence entre les moments où je vois où je vais et les moments où il n'y a pas ça. Et du coup, tu avances au jour le jour et tu fais des actions. Mais du coup, tu les mesures pas vraiment parce que t'as pas d'axe pour te dire sur quoi j'évalue ce que je fais, en fait. Qu'est-ce que j'acquiers et pourquoi je l'acquiers. Et c'est vrai que la ligne directrice là-dessus te permet de te cadrer, quoi. L'entrepreneuriat, c'est libre, et si on se met rien pour se cadrer, c'est une liberté létale.
Carrément, carrément. Vas-y, je te laisse poursuivre.
Yes. Eh bien, mon dernier point dans le business, il est d'identifier les faiblesses de tes forces pour parvenir à les compenser. Moi, à PUBG, j'ai pas eu beaucoup de potes avec lesquels jouer. Du coup, je jouais pas mal en solo. Parce que de toute façon, je suis un peu explorateur, donc j'aime bien aller regarder un peu tout ce qu'un jeu peut permettre, tout ça, tout ça. Et une de mes armes préférées, c'est le sniper. Moi, j'aime prendre la hauteur, j'aime bien éliminer les ennemis à distance. Il y a un petit côté, un petit défi d'anticiper où il va, etc. C'est vraiment une de mes forces. Mais la faiblesse, c'est que si des ennemis arrivent à m'approcher ou me prennent par surprise, bah, se battre avec un fusil à lunettes à proximité, c'est proche d'impossible. Moi, d'être un putain de génie que je ne suis pas. Je suis donc hyper vulnérable quand je suis au corps à corps. Et c'est pour ça que depuis que je l'ai bien constaté, eh ben, j'ai décidé de prendre en arme secondaire un fusil à pompe ou un pistolet à cadence rapide avec lequel je me suis entraîné pour être prêt à me défendre. Et c'est ce qui fait que sur une partie solo, j'ai pu aller bien plus loin parce que j'ai identifié ma façon de jouer et j'ai pallié à, en tout cas, du mieux que je pouvais sur les points où je savais que j'avais des faiblesses. Pour moi, dans une entreprise, c'est pareil. C'est hyper bien de. Pour moi, c'est même vital parce que c'est comme ça qu'on s'y amuse le plus, mais c'est vraiment essentiel d'identifier les forces avec lesquelles on peut développer notre activité, mais aussi en identifier les faiblesses. Moi, par exemple, je peux avoir plein d'idées, je suis très fort à avoir des putains d'idées et à comment je peux les améliorer, mais je peux avoir des failles dans agir, faire les premiers pas, enfin, faire même les pas dans le concret, l'action. Donc, je suis obligé de me mettre. Moi, je me fais la gymnastique. Ok, j'ai une idée maintenant. À la fin de ma pensée, ben, c'est quoi le premier pas que je peux faire là maintenant pour que ça commence à arriver cette affaire? Pour au moins commencer à cette démarche, cette gymnastique de passer à l'action. Parce que je suis très fort en idée et on peut, l'air de rien, on peut tous avoir des idées. Mais si je pallie pas à ma faiblesse qui est parfois de pas agir et rester dans la beauté, du potentiel des idées, bah, je fais rien, donc mon entreprise, bah, ciao, quoi. L'URSSAF me bouffe et puis on en reste là. Donc j'invite vraiment les entrepreneurs à identifier leurs forces et identifier les faiblesses de leurs forces pour que justement ces faiblesses ne soient plus tant des faiblesses, mais juste des points d'attention.
Écoute, je vais faire une
Voilà.
transition parfaite. Tu finis sur
Yeah.
des points d'attention et moi je vais parler de gestion de l'attention, justement.
Merveilleux.
Alors, l'attention en un seul mot, on est d'accord, parce que l'attention, du coup, on l'a abordé tout à l'heure. Moi, ce que j'ai remarqué dans PUBG, c'est que quand tu perds pendant 10 secondes ton focus sur ce qui se passe, tu meurs. Genre, tu te prends une balle ou tu te fais rouler dessus par un mec qui passait par là, ou tu te fais manger par la zone, ou peu importe, mais tu fais une connerie d'attention. Tu claques en fait. Et c'est un jeu qui te force en fait à avoir ce focus environnemental de te dire qu'est-ce qui se passe autour de moi, dans mon marché, dans mon univers, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et en business, voilà, pour moi, c'est la même chose, c'est de se dire apprends à gérer ton attention et surtout à te concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est productif, sur ce qui est utile. Parce que on est dans un monde où on perd un temps fou. Dans des machines à nous bouffer notre attention, en fait. Tu regardes tous les contenus qui sont flingués, tous les comportements addictifs, tous les livres business que tu lis pas, tous les influenceurs, je ne vais toujours pas citer de nom parce que je vais avoir des problèmes juridiques, mais on les connaît pour les procès faciles, donc des gens qui font de la merde sur Internet. Tu prends les achats de formation compulsifs, tous les comportements comme ça que tu peux avoir, c'est bien de prendre un temps de les analyser et de te dire qu'est-ce que moi je fais dans mon business qui me fait perdre du temps, qui me fait perdre de l'argent, qui me fait perdre de l'énergie et qui fait que ça me coûte en fait au final. Moi, je regarde personnellement, alors ce n'est pas mon cas au niveau des achats compulsifs de formation, avant j'étais comme ça. Là où j'ai perdu beaucoup de temps, c'était par exemple lire des bouquins business et jamais rien appliquer. C'était prendre des coachings individuels aussi. J'ai pris plein de coachings individuels parce que j'avais la croyance qu'il fallait absolument être accompagné à longueur de journée. Alors que depuis que je ne suis plus accompagné, bah, j'avance en fait. Je me rends compte que je peux aussi avancer tout seul. Et il y a plein de choses comme ça qui te coûtent des ressources, tu ne t'en rends pas compte. Et quand tu arrêtes le comportement consciemment ou inconsciemment, tu commences à être meilleur. Dans PUBG, je faisais pareil. J'avais un réflexe très très bête qui était de jamais recharger. Et très souvent, bah, tu rentres dans une petite battle avec des mecs, tu commences à tirer une balle, deux balles, trois balles, et là, tu entends le clac, chargeur vide. Et tu sais que c'est fini pour toi, tu vois. Et combien de fois j'ai perdu des parties à cause de ça? Et petit à petit, bah, tu vois, je me suis donné l'habitude. Et à chaque fois, je suis toujours là, carré, 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 carré. Dès que je peux, je recharge, tu vois. Et maintenant, comme tu disais, donc je rebondis sur ce que tu disais juste avant, maintenant, c'est une force que j'ai. Et cette force a aussi des faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où quand tu recharges alors que tu as tiré une balle, bah, tu perds le chargeur complet avec les 49 balles qui restaient. Et c'est là aussi l'importance de ce que tu disais, c'est savoir les faiblesses qu'on a en termes d'attention, mais savoir que quand on les a renforcées, bah, ça va créer d'autres petites faiblesses aussi sous-jacentes qui font que tu peux quand même faire de la merde dans ton business. Donc c'est important d'avoir ce recul, de se dire où est-ce que mon domaine me coûte de l'attention? Où est-ce que je perds inutilement de l'attention et où est-ce que je peux récupérer de l'attention justement pour être beaucoup plus performant dans mon activité. Voilà, donc c'est tout pour mes conseils business. J'avais hâte d'arriver sur les leçons spirituelles en vrai.
Ok, bah écoute, dans ce cas, sans transition, on y va.
Allez, c'est parti.
Alors, moi, le premier truc que c'est pas tant PUBG, mais le type de jeu qui m'a fait ça, mais le rapport au défi. PUBG, c'est devenu populaire pour son objectif. C'est vraiment être le dernier survivant parmi 100 joueurs. C'est pas un jeu facile. Enfin, ça demande d'être meilleur que 99 autres personnes. Et pourtant, il y a des millions de gens qui se sont lancés ce défi. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont abandonné face à la difficulté de l'objectif. Pourquoi? Parce que, on est immergé dans une expérience dans laquelle on se sent vivant. C'est une expérience hyper stimulante. Personnellement, j'ai été surpris de mon engagement dans ce jeu. Ça pouvait être dans d'autres, mais là, en tout cas ici, dans ce jeu, qui a été plus important que dans plusieurs domaines de ma vie, dans des aspects de ma vie. Donc, j'ai été plus engagé, inspiré à mettre de l'énergie, de l'effort dans un jeu vidéo, donc un truc virtuel, ça peut sembler aberrant, que dans des domaines de ma vie, à plusieurs périodes de mon existence. Et quand j'ai pris conscience de ça, déjà, ça m'a foutu un choc. Ça fait chier quand t'as pas envie que ça se passe comme ça. Et ensuite, bah, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me fait persévérer dans le jeu et comment je peux amener, finalement, c'est comment je peux amener plus de vie, plus d'expérience nourrissante dans ma vie. Parce qu'au final, si je suis moins engagé dans ces domaines de vie que dans ce jeu, c'est parce que justement, ces domaines, ils manquent de vie. Désolé, il y a le mot vie qui revient plusieurs fois. mais ces domaines manquent de vie. Et les expériences nourrissantes génèrent de l'engagement naturel. Donc, quand je sens un creux à un endroit dans ma vie, quand je sens que je suis pas engagé, comment je peux remettre de la vie dedans? Comment je peux le rendre plus vivant? Comment je peux le rendre plus nourrissant? C'est une vraie question. Et c'est vraiment quelque chose, une réflexion qui personnellement m'a changé beaucoup de choses dans ma vie.
Ah, c'est intéressant de ouf. Et c'est pas, enfin, ce que tu dis, moi j'en ai fait un peu mon travail, tu vois, de me dire bah, comment je peux créer des trucs, des expériences enrichissantes aussi pour les gens que je vais accompagner, pour les gens que j'accompagne vont accompagner aussi. Donc c'est vrai que ouais, je suis aligné avec ça. Et pour moi, c'est aussi un peu la tristesse du marché en ce moment, c'est qu'il y a, il y a des IA partout, il y a, voilà, tu peux tout automatiser. Alors je suis le premier à utiliser des IA, ça, il n'y a pas de problème. Mais à côté, j'ai quand même cette grande question que tu poses et qui est ultra pertinente. De se dire, mais comment tu rends ta vie expérientielle en fait? Comment tu la remplis de trucs dont tu vas te rappeler? Comment tu la remplis de choses qui vont te marquer émotionnellement, physiquement, intellectuellement, ce genre de choses? Et je pense que tout ça passe aussi par des rencontres en vrai. Bon,
Oui,
y a
c'est vrai.
plein, tu me diras, enfin, je pense que c'est le cas de tous les joueurs qui jouent un petit peu en ligne, même quand on était plus jeune. Tu peux te faire des potes sur les jeux en ligne. C'est des amitiés ultra profondes qui vont durer 10 minutes. Mais le mec, tu as l'impression de le connaître depuis 20 ans, tu vois. C'est ça qui est assez ouf aussi avec ces jeux-là, c'est que tu crées des rencontres incroyables. Je suis en train de digresser complètement. Du coup, est-ce que tu as fini ton point?
Oui, je vais
Ouais.
juste te dire que mes plus belles amitiés, pour ma part, elles ont été via les jeux vidéo. Dans le sens où il y a des gens à qui je parle encore, à qui j'ai joué quand j'avais 15 ans, quoi.
Ah,
Enfin,
pareil.
c'est aussi de très belles relations parce qu'on vit une vraie expérience ensemble.
De fou, de fou. Bah ça, c'est, en fait, c'est ça. C'est que si tu veux créer de la proximité avec une personne, vis des expériences avec elle. Et y a rien de mieux que ça, en fait. Il n'y a rien de mieux que ça. Et moi, c'est pareil. Les meilleurs potes que j'ai, c'est des gens avec qui je joue, en fait. Tu joues avec des gens et forcément, bah, tu vis des histoires avec eux que tu ne vivras pas en allant boire un mojito au soleil. Même s'il n'y a rien de
Ouais.
mal à boire un mojito au soleil.
Non.
Péter un boss sur Eternal, c'est très bien aussi, tu vois. Donc, ok.
Ouais.
Bah écoute, j'enchaîne avec ma première leçon spirituelle aussi de PUBG, qui est très très cash, c'est de toujours commencer par couvrir son cul. Très simple. La fameuse poêle dont tu parlais tout à l'heure, qui protège des tirs dans le cul quand tu ne l'utilises pas. Ça me montre aussi que les coups les plus difficiles de la vie sont ceux qui viennent de derrière toi. Et l'idée, c'est toujours de te dire comment est-ce que tu peux anticiper un minimum avant de faire un mouvement qui est risqué dans ton entreprise. Parce que tu auras justement des emmerdes derrière. Dans 100% des cas, tu auras des emmerdes. C'est le principe du jeu du business, c'est que tu as des emmerdes tout le temps et que tu prends plaisir à résoudre. D'où l'importance aussi de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est important de se dire quels sont les problèmes que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'avoir, au-delà de ceux que je suis OK d'avoir. Je suis OK d'avoir des problèmes de trésor, je suis OK d'avoir des clients qui veulent pas signer avec moi, je suis OK d'avoir une mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Je suis OK de plein de choses. Mais il y a des choses dont je ne suis pas OK. Je ne suis pas OK de me prendre un procès au cul. Je ne suis pas OK de mentir à mes clients, même pour faire de l'argent. Je ne suis pas OK d'aller à l'encontre de mes valeurs. Je ne suis pas OK de mentir, ce genre de choses. Et quand tu fais ce travail-là, de te dire qu'est-ce que je suis OK d'avoir et qu'est-ce que je ne suis pas OK d'avoir, bah, tu vas faire aussi un travail de préparation et d'anticipation. Et pour moi, c'est important dans la vie de tous les jours, même au-delà du business, de te dire. Ce que je veux pas, il faut que je le clarifie pour me préparer à ne pas l'avoir. Moi, ce que je veux pas dans la vie, par exemple, c'est arriver à 60 ans et rien avoir de côté, être dans la merde financièrement et continuer à ramer dans mon activité, etc. Ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en bourse et j'ai des actions qui tournent et tous les mois, c'est le seul truc dans ma vie où je suis discipliné, mais toujours de manière disciplinée, je prends mon petit compte, mon compte titre et je le remplis avec de l'oseille. Que je mets de côté exprès et qui travaille pour moi. Et je sais que quand je serai à la retraite, j'aurai des millions, en fait. Mathématiquement, j'aurai des millions. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire, toujours commencer par couvrir ton cul avant de faire quoi que ce soit. Tu veux lancer une entreprise? OK. Fais les démarches légales. Apprends comment on lance une entreprise. Forme-toi avant. Prépare tous les problèmes que tu pourrais éviter. Bah, fais en sorte de les éviter avant de les avoir. Donc, pose-toi toujours cette question. Quelles sont les emmerdes que je peux avoir dans l'expérience que je m'apprête à créer pour moi-même et comment je peux anticiper ces problèmes et ne plus les avoir en fait. Voilà. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de te dire qui a eu ce problème avant moi et comment est-ce qu'il a résolu ce problème. On connaît des entrepreneurs qui ont, je sais pas, ils ont un trou de trésorerie de moins 50, moins 100 000 euros. Comment ils se sont sortis de là et comment ils ont fait être millionnaires aujourd'hui? Ils sont passés par telle étape, telle étape, telle étape. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien interviewer des gens en leur demandant les emmerdes qu'ils ont eues et pas forcément les succès qu'ils ont rencontrés. Parce que je trouve ça beaucoup plus instructif. Du coup, voilà pour ma première leçon spirituelle depuis BG.
C'est un gars qui peut facilement s'imaginer 1000 scénarios sur un truc qui valide ce que tu dis. Je vois très bien. Alors, mon second point, il est proche de choses qu'on a abordées sur business, mais de toute façon, tout est lié. Donc, c'est que apprendre à gérer la pression, c'est déjà une victoire à moitié acquise. Le jeu, il te met sous pression constamment, on l'a dit tout à l'heure, qui rétrécit les combats incessants, en plus le nombre de joueurs qui diminue, parce que parfois rien que ça peut te mettre sous pression de voir qu'il y en a de moins en moins. Mais t'as pas le temps de paniquer, parce que si tu paniques, tu peux pas analyser la situation et te défendre. Bah, dans la vie, c'est pareil, tout peut arriver, enfin, des événements de toutes sortes peuvent arriver à tout moment, et ce qui te permet de t'en sortir à tous les coups, presque, c'est ta capacité à identifier cette pression, la pression de la tension. Du problème qui arrive, et observer la situation. pour prendre une décision que tu pourras assumer et non pas regretter. Et ça ne passe que par l'expérience. Tu ne peux que prendre ton courage à deux mains et aller affronter ces situations en les observant le plus possible et en essayant de garder en vue tes émotions au maximum. Moi, personnellement, PUBG, au début, je perdais en boucle. Parce que j'essayais de gérer trop d'infos à la fois. Ah, j'ai pas assez d'armes. Ah, j'ai plus assez de balles. Putain, faut descendre dans ce truc. Oh merde, un bombardement. Oh putain, une zone. Enfin, je mourais tout le temps. Parce que j'étais en panique, clairement. J'ai pas honte de le dire. Mais petit à petit, bon, à force de vivre l'expérience encore et encore, bah, j'ai accumulé les informations, la gestion de ces informations et comment je pouvais les vivre. Et depuis, bah, même quand je me fais laver le fion très vite, bah, je suis calme. Puis nous-mêmes, tous les deux, on le voit avec le jeu auquel on joue en ce moment, dont on va parler prochainement dans le podcast, hein, Returnal. au début, c'est un festival de son et lumière pour moi. Donc, je comprends rien et je me fais torcher en boucle. Puis petit à petit, je commence à tout comprendre et ça va mieux. Bah, la vie, c'est pareil. Au final, tes mésaventures, c'est les meilleures pépites de ta vie parce que c'est ce qui te permet après de gérer ta vie d'une façon dont tu es fier, quoi.
100%. 100%. Complètement d'accord. En vrai, j'ai rien à ajouter là-dessus. Je pense que t'as carrément tout dit. Je ne sais pas.
Verra
On
si
est
c'est
où?
aussi validé par un street.
Ah ouais, c'est 100% validé par la street. Bah écoute, je vais enchaîner si t'as terminé là-dessus.
Yes.
Ouais. Bah écoute, moi, la deuxième leçon que j'ai appris de ce jeu, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'un succès ne t'apprend rien. Un échec t'apprend quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu réussis, il se passe rien de cool. En vérité, il se passe rien de cool. T'as de la fierté, tu ressens des émotions positives, mais dans le pratico-pratique, il se passe rien d'intéressant pour toi. Par contre, quand tu te loupes, il se passe plein de trucs géniaux, mais émotionnellement, c'est le contraire. Ça casse les couilles, c'est frustrant, ça fait chier, ça rend triste, etc. Tu regardes PUBG, quand tu fais ton premier top 1, tu vis ta meilleure vie. Tu dis, putain, j'ai été meilleur que 99 personnes. J'ai été plus intelligent que chacun d'entre eux d'une certaine manière dans un laps de temps de 30 minutes. J'ai été meilleur que 99 individus, etc. Ton ego, il est super content. Tu es gratifié. Tu as le petit badge à la fin qui te dit winner, winner, chicken dinner. Donc tu te dis, putain, c'est trop bien. Tu as ton poulet là à la fin. Et tu débloques voilà, des trucs et tout. Tu es content. À côté de ça, tu refais une partie d'après. Et tu te manges un top 2, un top 3, un top 4, même un top 10, un top 20. Et ça veut dire que tu t'es fait buter. Même si tu t'es fait buter par le dernier mec, bah, tu t'es fait buter quand même. Et là, tu apprends des choses. Tu te dis, OK, bah, j'ai loupé ma couverture, je me suis mal placé, j'avais pas le bon armement, j'avais pas la bonne portée, j'avais pas assez de protection, j'ai mal anticipé ou je me suis fait bouffer pour la zone parce que j'ai pris trop mon temps, etc., etc. Et tu apprends des choses en fait. Et ce que je veux dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit en direct ou surtout sur le podcast, gardez à l'esprit que ne faut pas se plaindre d'échouer. Il y a des gens, ils ont la malchance de réussir du premier coup. C'est pas bien de réussir du premier coup. Moi, je souhaite à personne de réussir d'entrée de jeu, en fait. C'est trop bien quand tu te loupes, tu te loupes, tu te loupes, tu te loupes, et après, tu y arrives. Je dis pas qu'il faut absolument en chier pour réussir et forcément comme des tueurs pourraient le dire tu vois dans la typologie de tueur t'as plein de gens ils sont en mode ouais, il faut être discipliné il faut travailler dur etc c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est vraiment ce délire de t'as besoin de te planter avant de réussir pour comprendre comment t'as réussi t'as besoin de foirer des lancements pour quand tu réussis un lancement comprendre pourquoi tu l'as réussi et pouvoir le répliquer t'as besoin de faire des mois à 0 euros pour que le jour où tu fais un mois à 10 000, à 20 000, à 50 000, tu comprennes pourquoi tu as fait ce mois à 10 000, à 20 000 ou à 50 000. Tu as besoin de te planter pour connaître ton processus personnel de réussite. Parce que je pense qu'il n'y a pas de leçon globale, il n'y a pas de recette miracle. Chacun va avoir sa propre manière de réussir en business et dans sa vie de tous les jours, dans son couple, etc. Et en fait, parce que chacun a sa manière de réussir, chacun va aussi avoir sa manière d'échouer et chacun va tirer les leçons dont il a besoin de l'échec qu'il va rencontrer. Donc pour moi, c'est important de prendre en compte l'échec dans le processus de réussite et surtout le processus d'apprentissage dans l'échec avant cette réussite. Donc voilà, soyez pas trop heureux de faire que des top 1. Et ne soyez pas trop malheureux de faire parfois que des top 2. Parce que vous avez besoin de vous louper pour apprécier et surtout pour comprendre comment vous avez gagné au jeu. Donc voilà pour ma deuxième petite leçon spirituelle.
Non, elle est hyper importante celle-là. En vrai, près de la moitié de mes clients entrepreneurs, ils viennent me voir pour ça. C'est des gens qui ont réussi et qui ont échoué derrière. Et ils n'arrivent pas à s'en remettre. Le niveau d'estime de soi derrière, il est catastrophique. Alors que ceux qui galèrent d'abord pour réussir, ben, ils ont fait du chemin. Donc, l'air de rien, quand tu perds, en tout cas perso, je trouve que quand tu perds, quand tu échoues, ça te donne des chances de réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Parce qu'au final, quand tu as envie de réussir un truc, au départ, c'est avant tout une image que tu as en tête. Tu sais pas réellement si c'est ce que tu veux, mais c'est ce que tu penses vouloir. Et en général, c'est pas ça que tu vas avoir, mais tu vas aller vers ce que tu veux vraiment. Et je trouve que quand t'as pas d'échec, tu te prives de ça, quoi. Puis on le voit, il y a plein de gens autour de nous, des entrepreneurs ou autres, ils arrêtent leur carrière en plein dedans parce qu'ils réalisent que c'était pas ce qu'ils voulaient vraiment. Tout pourtant semblait dire qu'ils ont une belle vie, c'était heureux. Puis en fait, non, c'était putain de malheureux parce qu'en fait, ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ou alors, ils se cassent la gueule derrière et ils ont aucune endurance face à l'échec. Donc, ils se ramassent violemment, quoi. Donc, complètement en phase avec toi que... En fait, limite, le top 1, je le trouve... C'est vrai qu'au début, t'as une excitation. C'est genre, putain, yes! Tu l'as fait, quoi. T'es venu pour ça. Mais en même temps, t'as le... Je trouve, je sais pas si c'est pour toi pareil, mais il y a un peu ce côté, j'ai fini le game.
Ouais.
Et ça fait bizarre, ça fait un vide. Du coup, après, bah, est-ce que je relance une partie? Est-ce que... À la limite, si t'es un peu un challenger, tu vas le refaire, parce que tu te dis, ouais, je vais m'améliorer dans ma façon de le faire. Mais si t'étais venu pour ça, ça peut te faire un vide de fou. Je trouve que dans la vie, c'est pareil. C'est quand tu vas trop vite à tes objectifs, tu peux ressentir un vide. Je le vois genre dans la séduction. Je vais pas m'éparpiller trop loin, mais quand tu essaies de séduire quelqu'un, etc. Enfin, quand tu as une chérie, tu te rappelles souvent de cette phase. Il y a eu entre vous, vous êtes cherché, il y a la séduction, il y a un petit truc qui s'est fait, quoi. Puis hop, objectif atteint, vous êtes ensemble, etc. Et pour ceux qui passent leur temps juste à papillonner, il y a ce côté, bah, c'est vide après. Ce qui les intéressait, c'était toute cette phase de je joue, puis hop, objectif atteint. Waouh.
Ouais, c'est clair.
Donc, cassez-vous la gueule, les gars.
C'est clair. Ouais, je pense que c'est préférable, surtout d'avoir un échec que tu comprends que d'avoir une victoire que tu comprends pas, tu vois.
Ouais.
De dire, j'ai fait un mois à 100 000 euros, mais je saurais pas le refaire. Comment je fais,
légitime.
Tu te sens pas légitime et surtout tu te dis mais j'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de regarder le mode d'emploi de ce que je viens de faire, et j'ai plus le temps ou l'énergie ou la mémoire pour re-regarder, pour faire une rétrospective. Et pour moi c'est super important de comprendre ce qu'on a de comprendre comment on a fait les victoires qu'on a fait, tu vois, de te dire c'est quoi qui a marché pour moi dans ce que j'ai réussi à accomplir en fait, et une fois que t'as ça, bah, tu as ta recette en fait. Et c'est vrai que comme tu disais, quand tu fais un top 1, 2 top 1, 10 top 1, 50 top 1, tu dis bon, bah, c'est bon, je maîtrise l'expérience en fait. Et tu as envie de passer à une autre expérience. Et c'est pour ça, je pense que ce jeu dure longtemps. C'est que bah, tu as le mec qui reste en top 1 et tu as les 99 derrière qui veulent arriver aussi au top 1. Et donc forcément, bah, ça va créer une énorme rétention des joueurs qui se disent bah, moi, je n'ai pas encore maîtrisé l'expérience en fait. Je veux connaître le secret, je veux connaître le succès. Et en fait, c'est un jeu qui te montre que le succès, tu ne l'as pas parce que tu as les meilleures techniques, les meilleures idées, les meilleures stratégies. Tu l'as parce que tu es le plus calme, tu es le plus posé et tu es celui qui a l'expérience du terrain, entre guillemets. Et en business, pour moi, c'est un peu la même chose. Du coup, aligné avec ce que tu dis.
C'est clair. Amen.
Amen. À toi. Amène-nous le prochain point.
Ah, bien vu. Alors, mon prochain point, c'est ne rien avoir peut être une opportunité. Quand tu tombes de l'avion, t'es en slip. Donc, t'as juste tes petites mains, tes petits poings, t'as vraiment rien du tout. Et tu peux atterrir parfois dans des lieux où tous les équipements, ils ont déjà été pris par des joueurs plus rapides. T'es vraiment, toi, ton slip, même pas de couteau, juste tes mains, face à des joueurs qui ont tout l'équipement pour retourner ce même slip sans franchement faire d'effort. Donc, c'est des situations qui peuvent sembler désespérées, mais perso, c'est celles qui m'ont rendu le plus créatif. comment tu t'en sors pour continuer ta route alors que t'as rien trouvé. Tu peux te retrouver à te cacher, à emmener des ennemis vers un autre groupe d'ennemis que t'as vu pour qu'ils se tapent entre eux, et réussir à choper un truc au passage, renverser des gens avec un véhicule. Enfin, bref, il y a des tonnes de possibilités. En réalité, même sans équipement, tu peux encore faire des tonnes de trucs. Et moi, ça m'a, c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué. C'est limite, des fois, j'étais meilleur sans équipement qu'avec. Parce que ces moments où t'as rien, c'est comme si ça te donnait accès à d'autres trucs chez toi. Y a moins de limites. En tout cas, si t'es capable d'y avoir accès. Personnellement, j'ai pas mal déménagé. J'ai une bonne quinzaine de fois. Et à chaque fois, j'ai de moins en moins d'affaires. Et au début, ça m'a insécurisé parce que j'ai l'impression de perdre des choses. De revenir en arrière, un temps où j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Mais petit à petit, j'ai réalisé que, bah, en vrai, ça me faisait du bien, à chaque fois d'avoir de moins en moins d'affaires. Parce que ce que je laissais, ça me manquait pas. Et à chaque déménagement, du coup, bah, je gardais que ce qui comptait vraiment. Et ça m'a permis de définir ce qui était vraiment important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de grand-chose pour être heureux. Ça n'empêche pas l'ambition. Mais juste, elle devient différente, en fait. Elle se résume plus à posséder davantage, ou à avoir plus, mais elle est dans le comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux ressentir. Et personnellement, je suis convaincu que quand on passe de j'ai besoin d'avoir pour m'épanouir à je sais ce que je veux ressentir pour être épanoui, bah, ça change tout le rapport à la vie. Et tu as bien plus de chances d'être heureux dans ta vie que, en essayant d'à tout prix, acquérir un maximum de choses sans finalement trop savoir pourquoi.
De fou. Bah, je vais poursuivre sur un truc parce que tu m'y as fait penser, je ne l'ai même pas mis dans mes notes, mais une grosse leçon que ce jeu peut t'apporter aussi, c'est que des fois, quand tu te délestes, tu te rends service de fou. Tu disais au début, effectivement, tu arrives, tu es en calbut, tu es seul, tu n'as rien, tu dois te démerder. Moi, la première chose que j'ai fait dans PUBG, quand j'ai compris que ça avait un impact, c'est que dès que j'arrive dans une partie, j'enlève les chaussures. Parce que quand tu enlèves tes chaussures, quand tu cours, tu fais moins de bruit, quand tu rentres dans les maisons, on t'entend moins marcher, etc. Et je me suis dit, en fait, des fois, tu peux te délester de quelque chose et te délester de ce quelque chose te rend service de ouf alors que tu pensais que c'était utile dans le contexte dans lequel tu es. Et dans la vie, c'est pareil, il y a tellement de choses. Ça peut être des relations, ça peut être des objets qui peuvent avoir un poids émotionnel que tu as chez toi. Ça peut être des idées, ça peut être des projets que tu as, ça peut être des plans, ça peut être des personnes qui sont dans ton équipe, etc. Des fois, le meilleur service que ces choses-là peuvent te rendre, c'est de dégager en fait, c'est de quitter ta vie. Et je pense qu'il y a vraiment une bonification à se délester de certains trucs. Donc, du coup, je poursuis carrément ta réflexion, c'est de se dire, mais de quoi je peux me débarrasser comme matériel, comme outil, comme truc, qui vont me donner de l'espace, qui vont me donner de la place. Et je le voyais justement, on est quoi jeudi, bah, hier mercredi, j'avais Mastermind. Et on a le gars qui a fondé le mastermind qui nous disait, voilà, c'est quoi votre pépite aujourd'hui, les gars, et tout. Et il a commencé, et en fait, sa première pépite, c'était on reprend tout notre business et on supprime tout ce dont on n'a plus besoin. Et il a lâché un truc qui nous fait, putain, les gars, ça fait tellement du bien, en fait. Et je me rends compte à quel point c'est vrai, c'est que quand tu fais de l'espace, quand tu fais un peu de vide, ça fait un bien fou. Plutôt que d'accumuler, c'est de se dire comment je peux me délester. Je sais plus qui avait abordé cette notion-là, mais qui disait, c'est pas une question de développement personnel, c'est une question de dépouillement personnel. Il faut pas chercher à ajouter des connaissances, des choses. Il faut apprendre à jeter tout ce qui sert à rien. Et il y a énormément de choses qui servent à rien qu'on porte sur nous. Et tout le travail de développement personnel, c'est un travail en fait de dépouillement personnel. Donc voilà, c'était une petite grosse parenthèse.
Oh, c'était très bien. Eh bien, à ton tour, dans ce cas.
Eh bien oui, en effet. Bah, écoute, troisième leçon spirituelle du jeu. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans des jeux multi. C'est la puissance des égrégores. Quand tu joues dans une équipe et que l'équipe est constituée de gens qui ont une vraie symbiose naturelle, tu crées ce qu'on appelle un égrégore. L'égrégore, c'est une sorte de cinquième personne dans l'équipe de quatre. Tu vois, c'est cette énergie en plus, c'est l'énergie du tout. C'est genre... Le tout est supérieur à la somme de ses parties, en fait, tu vois. Et t'as un genre d'entité. Tu fais partie d'un truc un peu plus grand. Et en fait, c'est comme si tu t'oubliais individuellement et que tu sais, tu fais partie de... Un peu comme dans Pacific Rim, tu vois, les mecs, ils montent dans un robot géant. T'as un mec qui contrôle le bras, un autre, il contrôle l'autre bras. Il y en a deux, ils contrôlent les jambes et un, ils contrôlent la tête. Et en fait, les cinq mecs en même temps font qu'une énorme machine beaucoup plus grosse qu'elle fonctionne bien. Et je pense qu'en business, c'est un peu la même chose. Et dans la vie aussi, c'est la même chose. C'est de te dire, dans la vie, comment est-ce que tu peux réunir des personnes avec qui tu vas générer un égrégore, en fait. Qui tu peux rassembler pour créer des égrégores incroyables. Et une fois que tu as ces égrégores incroyables, tu peux accomplir des grandes choses, en fait. C'est toujours des alliances intelligentes qui ont fait les plus grands projets de cette planète. Toujours, tu mets Napoléon, tu mets Einstein, et tu mets Musk, et Jules César dans la même pièce. Il y aura un égrégore de fou, tu vois. Il va se passer des choses. Pas forcément des trucs incroyables, éthiquement parlant, clairement, mais il va se passer des trucs de fou. Tu mets 5 dépressifs, il y aura aussi un égrégore. Mais ça va être un égrégore qui va être puissamment négatif, tu vois. Donc l'idée, c'est de se dire, dans ta vie, quand tu veux accomplir des trucs de fou, quel égrégore est-ce que tu peux créer, en fait ? Quelle personne est-ce que tu peux rassembler en t'impliquant toi-même dans ce groupe de personnes, avec qui tu peux te rassembler pour que, quand tu es avec quelqu'un, vous n'êtes pas 1 plus 1 égale 2, vous êtes en 1 plus 1 égale 3, tu vois. C'est de se dire vraiment comment tu peux créer ce schéma-là. Et moi, je regarde un petit peu tous les trucs que j'ai vraiment réussi et que j'ai réussi en équipe. Y a toujours eu cet esprit de on est 4, mais en fait, il y en a 5 qui travaillent. On est 2, mais en fait, il y en a 3 qui travaillent. Tu regardes un couple qui est soudé, qui est complice, etc. Il n'y a pas 2 personnes, il y en a 3. Tu as la nana, le mec, on est en 2023, donc on peut dire le tabouret et la flaque de couleur. Et c'était gratuit. Et tu as cette idée de le couple. Il y a l'homme, la femme, le couple. C'est 3 entités qui fonctionnent aussi séparément. Et donc je pense que voilà, tu veux évoluer dans la vie, tu dois apprendre à créer des égrégores. C'est un peu ce que j'ai compris dans PUBG. Tu vois, les meilleures parties que tu fais, tu as cet esprit d'équipe où l'équipe, elle fonctionne toute seule. Genre, les gens ne réfléchissent pas. Quand il y a une info pertinente, la bonne personne va donner la bonne info au bon moment. L'autre personne va traiter l'information de la bonne manière au bon moment aussi. Et c'est comme ça que tu fais des top 1 incroyables et que tu cartonnes dans ton activité, quoi. Donc, du coup, voilà, créer des agrégores, les amis.
Ça me parle bien, ça. Ça me donne envie de rejoindre des masterminds. Tu peux enchaîner ?
Tu peux enchaîner, vas-y, fais-toi plaisir.
Ok. Le point suivant, moi, c'est un point qui m'a passionné, qui me passionne encore. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre ? Ce jeu, il peut vraiment montrer des facettes de toi. Ce type de jeu, d'ailleurs, tout court. C'est-à-dire que certains utiliseront tous les moyens pour être le dernier survivant. Camper, se cacher dans des buissons, laisser les autres s'affronter pour achever celui qui reste debout. Et il y en a d'autres qui utiliseront que des moyens qu'ils estiment nobles. Donc, attaquer de front, jamais par derrière, etc., etc. Et ça, ça en dit beaucoup sur ta vision des choses et ta vision de la vie. Je vois souvent, parce que moi, j'ai des amis gamers et j'ai été sur des communautés de gaming, du coup, des gens qui débattaient là-dessus. Dire, les gens qui se cachent, etc., ils ont pas de race, c'est des enfoirés, c'est pas des bonnes personnes, c'est pas comme ça qu'on joue au jeu. Et eux, de dire, mais c'est un jeu de survie, donc tout ce qui compte, c'est de survivre, quoi. On n'est pas là pour être des chevaliers, pour faire la noblesse. Et je trouve vraiment que quand tu t'impliques émotionnellement dans cette réflexion, ça peut t'amener à comprendre ton rapport à la vie, en fait. Moi, personnellement, je trouve cette question hyper difficile en soi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre ? Parce que perso, je pense que ça va plonger dans tes propres valeurs, ça te demande de vraiment les connaître. Et pour les connaître, tu peux pas te permettre d'être constamment occupé, t'es obligé de passer du temps, en fait, à aller regarder ton rapport à la vie. J'en parlais un peu précédemment. Mais pour moi, c'est connaître ses valeurs, interroger ton rapport à la vie, c'est ce qui te permet de vraiment en profiter et pas d'avoir l'impression de courir après quelque chose, de subir la vie. Et peu importe ce qui y arrive, quoi, que ce soit des problèmes climatiques, des problèmes d'économie, des problèmes dans ta vie perso, si tu les connais, la vie peut continuer à valoir valoir la peine. J'ai du mal à faire ça grammaticalement parlant de façon propre. Mais ça vaut la peine quand tu sais pourquoi tu vis et qu'est-ce qui fait sens pour toi. Désolé, c'est tellement profond que même chez moi, ça continue à me creuser quand j'en parle.
Continue, continue, vas-y, on te regarde.
Non, mais là, j'étais au bout. C'était pas forcément très long à développer, mais je trouve que ce genre de jeu permet vraiment de réfléchir à ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment des réflexions intéressantes. Je trouve pas que c'est. Des fois, il y a des réflexions, c'est de la masturbation intellectuelle un peu. Ou alors, il faut vraiment que tu aies le temps. Quand tu es plus en galère dans la vie, t'as pas forcément le temps de te dire que tout est juste. C'est pas le cas du tout à l'instant précis. Mais le rapport à la vie, bon, c'est une vraie réflexion qui peut tout changer. Donc j'invite vraiment les gens à aller questionner ça. Pourquoi pas tester ce genre de jeu pour peut-être le découvrir d'une façon ludique, parce que ça peut être fait de façon légère, justement.
C'est intéressant parce que je pense que c'est pas toi qui choisis ça. Pour moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce point-là parce que je me dis, quand tu es dans un PUBG par exemple et que tu as cette réflexion de est-ce que ce mec-là, je lui tire dans le dos? Est-ce que je me cache et je les laisse se battre entre eux et moi je prends le dernier qui sera blessé et que je peux terminer, etc. C'est pas toi qui choisis, c'est ton instinct de survie qui choisit, c'est ton cerveau reptilien qui choisit pour toi. Et c'est pas toi qui prends une décision consciente, tu vois. C'est plus l'animal à l'intérieur de toi qui a envie de survivre, qui est câblé pour survivre, lui, il prend quoi comme décision? Et je pense que cette question de quoi je suis capable pour survivre, elle n'a pas lieu d'être en soi parce que c'est pas toi qui as une décision là-dessus, t'as pas de clarté là-dessus. Qui sait ce que ton animal intérieur peut faire quand tu as un fusil braqué sur toi, quand tu as un procès au cul, quand tu as quelqu'un qui t'insulte sur Internet, bon, on n'est pas dans la survie à ce niveau-là, mais. Tu vois, quand tu es soumis à quelque chose qui te fait te sentir en danger, et c'est ce que je critiquais dans un post Facebook il y a quelques temps, ouais, 2, 3 semaines, où j'attaquais du coup tous ces gens qui font vraiment de la merde sur le marché, tu vois, qui font des combines, des trucs pas possibles. J'ai entendu des trucs vraiment sales, tu vois, de gens qui. Leur image, elle est nickel, tu vois, les gens, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont stylés, ils sont bien. Et quand tu apprends ce qu'ils font derrière, tu te dis, mais c'est pas possible que ces gens-là fassent ça, en fait, t'es trop déçu, tu vois. Et ces mecs-là, ils sont drivés, je pense, par le côté animal parce qu'ils sont, ils se sentent en tout cas en danger financier, en danger de notoriété, en danger par rapport à ce qu'ils veulent créer, par rapport à plein de choses. Et je pense que les gens qui font des saloperies, en fait, la plupart d'entre eux, sans vouloir les défendre, ils ont une insécurité qui fait qu'ils ont ce comportement-là, en tout cas quand c'est inconscient. Après, bien sûr, je vais pas défendre des trucs. Qui sont pas défendables. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de ton instinct de survie peut prendre des décisions à ta place. C'est jamais des décisions qui prennent en compte le côté éthique. Quand je vois des mecs, par exemple, je sais pas, qui se mettent à mettre des faux chronomètres sur leur page de vente pour accélérer l'urgence, faire stresser et te faire acheter.
Connais celui-là.
Voilà, bah, t'as celui qui va faire ça parce que c'est un trou du cul, il le fait consciemment, il dit, ouais, ça fait de l'urgence, ils ont peur, ils achètent. Et il n'y a pas plus de cas de conscience que ça, et je trouve ça moyen. Et tu as celui qui va le faire en mode je suis dans la méga merde et il me faut de l'argent absolument parce que sinon je vais finir à la rue. Et c'est deux choses que je défendrais un petit peu différemment, tu vois. Est-ce que tu as fait ça consciemment parce que tu sais que ça fonctionne et que tu es juste un enculé? Ou est-ce que tu fais ça parce que tu es en danger, parce que tu te l'expliques pas et parce que tu sens que ça va te sauver, tu vois. Et pour moi, c'est deux manières de faire qui sont un petit peu différentes et ça rejoint cette question d'intentionnalité. C'est quoi l'intentionnalité
Ouais,
derrière ce que tu as
attention.
fait? Voilà. Donc pour moi, il y a cette question à se poser en fait plutôt.
Bah, je suis en partie d'accord avec toi. Je pense aussi que l'instinct de survie fait des choses et qu'on ne peut pas forcément y répliquer, parce que c'est le système nerveux qui prend le dessus et tout. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ça n'empêche pas des fois qu'on regrette ce qu'on a fait ou que. Enfin, ça nous apprend forcément des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que. Bon, je vais essayer de prendre un exemple personnel, ce sera peut-être plus simple. C'est pas forcément de la survie, mais à l'instant T, j'ai eu cette sensation. Une de mes ex, avec qui j'étais, je pense, j'ai eu de la dépendance affective avec elle. Elle était un peu mon univers à l'époque. M'a annoncé qu'elle m'avait trompé. Et à l'instant T, quand elle me l'a dit, j'ai ressenti la douche froide du siècle, parce que d'un coup, tout explosait dans tous les sens. Ma colère, est montée à des stades où je la connaissais pas à ce stade-là. Et sur le moment, honnêtement, le premier réflexe de mon corps, c'était de lui en coller une. Et pour autant, je me suis retenu parce que j'ai senti qu'il était hors de question que j'en vienne à la frapper. Je ne frappe pas quelqu'un que j'aime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, ma congruence, mes valeurs m'ont stoppé. Même si je rêvais de la dégommer tellement ça me faisait mal et tellement j'étais heurté, trahi, c'était atroce. Je cherche pas à dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, hein, quand on parle de ça, parce que c'est de la survie. Franchement, il y a toujours des raisons pour lesquelles les gens font les choses, et t'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est tout. Mais face à la situation, il n'y a qu'une seule personne qui la vit, donc je pense que ça pourrait être un putain de sujet philosophique hyper intéressant. Tout ça pour dire que je suis quand même en partie d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des fois juste tu choisis pas. C'est ton corps qui réagit à ta place et t'as aucune possibilité de réflexion dans le process. Mais je dis juste que quand tu réfléchis vraiment à ces trucs de ton côté, je pense que avoir en conscience tes valeurs, ça peut te permettre de faire des choses qui sont vraiment en accord avec qui tu es et qui font que les choses valent la peine d'être vécues.
C'est clair. Je te rejoins. Je te rejoins.
Mais sujet très très intéressant.
Sujet très intéressant. C'était à toi ou à moi, du coup, pour la prochaine?
C'est ton tour.
C'est mon tour. Je suis largué sur les tours, c'est incroyable. Du coup, bah, écoute, quatrième leçon spirituelle que j'ai pu apprendre dans PUBG, c'est que dans la vie, alors ça va paraître très bateau ce que je vais dire, mais c'est bien de se le rappeler, c'est qu'il y a une part de chance, il y a une part de malchance, il y a de l'injustice et il faut faire avec. Ça, c'est PUBG vraiment m'a appris ce truc-là avec le côté un peu walking simulator. Donc, walking simulator, c'est que tu fais que marcher. La map, elle est quand même grande. Je sais plus combien de kilomètres carrés, mais c'est vraiment une grosse, grosse map. Et en fait, tu peux, voilà, t'as pas beaucoup de véhicules. Souvent, les véhicules, ils sont pris par les autres. Donc, toi, t'es seul dans la pampa et tu marches, tu marches, tu marches. Et sans aucune raison, tu te prends une balle perdue, tu meurs et tu retournes sur le menu du jeu. Et ça casse les couilles de ouf, mais ça t'apprend que bah, ça fait partie aussi du jeu que d'être supprimé totalement de la partie, tu vois, sans que t'aies demandé quoi que ce soit. Et la vie va faire que bah, c'est la nature du monde, entre guillemets, de te faire baiser, même si tu ne le mérites pas. C'est la nature du monde de vivre des injustices, de vivre des trucs qui vont te casser les couilles, de vivre des trucs que tu ne mérites pas et que tu vivras quand même. Parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle n'est pas conçue pour. Elle est pas conçue sur un système de valeurs, elle est conçue sur un système biologique. Il y a une sélection naturelle. Si tu es plutôt une proie, bah, la vie va faire en sorte que tu sois une proie toute ta vie. C'est tout. Jusqu'à ce que tu choisisses d'être un prédateur, par exemple. La vie fonctionne comme ça pour moi. Et je pense que ce jeu, il t'apprend un peu ce côté de avance avec ça en conscience. N'en fais pas une fatalité. C'est pas parce que tu as été une proie pendant toute ta jeunesse, moi, ça a été mon cas, que tu peux pas être un prédateur qui est pas attaquable plus tard, ce que je considère être mon cas aussi. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, tu vas vivre des trucs pas justes. Tu vas vivre des trucs de merde et tu en vivras encore plein. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et l'important derrière ça, c'est de pas en faire une fatalité, de pas se dire, putain, moi, il m'arrive que des merdes, moi, il m'arrive que des problèmes, de pas rentrer dans cette posture de victime, te dire, mais putain, mais moi, ma vie, c'est vraiment tout pourri, il se passe que des trucs négatifs et tout. Non, en fait, tu laisses passer ça. Tu laisses passer ça et tu as, entre guillemets, un peu un camp à choisir. Tu es une proie ou tu es un prédateur. C'est la nature qui voilà, t'es n'importe quel animal, n'importe quel végétal, tu es proie ou prédateur. Donc, c'est à toi de choisir. Et les deux peuvent avoir de la chance et de la malchance dans la vie. Donc, ce jeu m'a vraiment appris ce truc-là. Que tu sois prédestiné à faire ton 150e top 1 sur le jeu ou que tu sois prédestiné à encore mourir dans les 10 premiers dans la partie, tu peux avoir de la chance. Tu peux avoir de la malchance, peu importe qui tu es. Donc, toujours garder une humilité face à ça. Voilà pour le quatrième point.
Je partage complètement cet avis. Peut-être moins sur prédateur-proie, mais c'est juste une façon différente de voir de mon côté. C'est pour ça que je déteste dans le développement personnel cet adage de merde qui est tout est juste. Non, la vie n'est pas juste.
C'est clair.
Elle ne l'a jamais été. Tu peux trouver de la justesse dans ce que tu vis, c'est pas la même chose, mais tout n'est pas juste. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, on n'a pas tous le même capital chance. Rien que tu nais par hasard en France ou tu nais par hasard en Afrique, c'est pas le même setup de base. Donc à un moment, il faut aussi accepter, enfin ça va dans les deux sens, quoi. Accepter que tu es chanceux des fois, accepter que tu peux être malchanceux. Et c'est vrai qu'une fois que tu as compris ça, ben, il y a beaucoup de choses, à mon avis, tu peux vivre avec beaucoup plus de tranquillité, sérénité, je sais pas trop comment dire, mais t'as raison. Je vois toutes ces parties où Tu trouves un max d'équipement, tu te dis, ça y est, je suis prêt, c'est la bonne. Tu tombes d'une, tu meurs d'une chute. Un truc qui explose à côté de toi. Ou... Putain, mais c'est pas vrai. Les astuces d'aligner, bordel. Et non, dans mon con.
De ouf. Bah écoute, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi.
Si ok. Eh bien, mon dernier point qui fait lien avec pourquoi j'aime aussi énormément les jeux vidéo, c'est qu'on peut être sérieusement drôle et drôlement sérieux. PUBG, c'est un jeu qui peut sembler très sérieux, ne serait-ce que par son objectif. C'est un jeu intense, c'est un jeu tendu. Moi, pour ma part, quand j'y joue en solo, je suis un peu dans cette ambiance-là, avant que je cherche à explorer quelque chose. Mais quand j'y joue en duo ou en équipe, bah, j'adore faire des blagues, j'adore plaisanter, j'ai envie de créer de la cohésion, de la chaleur, taper des barres. Parce que je joue pour passer un moment de qualité que les autres. Et déjà, ça apaise la tension du jeu. Moi, je me suis rendu compte que j'étais meilleur quand je faisais ça, que quand j'étais silencieux et extrêmement concentré sur ce qui se passe dans le jeu. Je me suis rendu compte que faire ça ne m'empêchait pas de me concentrer, déjà, d'avoir la bonne concentration. Parfois, elle m'aidait à l'avoir, même la bonne. Et je me suis rendu compte que niveau performance, bah, je sais pas, t'as parlé de détachement avant, bah, c'est de ça, je pense. C'est que moi, c'est une de mes façons d'être dans le détachement, et du coup, mes performances, bah, elles sont moins perturbées par « Ah, je ne peux pas le faire. Ah, c'est dur. » Et j'ai réalisé que c'était pareil dans ma vie. Quand je mets trop de sérieux, je suis beaucoup moins efficace, ça a beaucoup moins de saveur. J'ai besoin de légèreté pour que les choses se passent bien et que j'aie des résultats. Mais attention, je ne dis pas que tout le monde fonctionne comme ça. Mais je pense qu'on y gagne à mettre de la légèreté dans ce qu'on fait. Ça n'empêche pas le sérieux. Ça le rend peut-être même moins fatigant. Donc on peut l'être plus longtemps. Mais je pense vraiment qu'on gagne avec la légèreté, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est un des pièges du dev perso, c'est qu'à force, tu as parlé de dépouillement, pour moi, ça rejoint ça. C'est à force de voir tous les trucs qui peuvent changer pour que tu sois bien dans ta vie, tu mets une espèce de sérieux à devenir la bonne version de toi. Alors, et la légèreté, putain, ça sauve vraiment, je trouve. Et le petit point que j'ai envie d'ajouter là, c'est vraiment j'invite les gens qui nous regardent à jouer à des jeux vidéo comme PUBG ou d'autres et à vivre ces expériences en coopération. Parce que je trouve que la qualité des relations qu'on a, moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie. C'est mes relations en ligne, c'est la qualité des relations que j'y avais et le plaisir et la vie que j'ai eu là-dedans, quoi. Je trouvais ça aberrant. Enfin, j'étais dans un environnement perso où je voyais tout le monde s'éclater à aller en soirée, à aller boire des verres, faire des grosses DJ nights et tout ça. Bon, c'était pas du tout mon truc. Et j'avais l'impression de vivre une putain de vie en jouant à des jeux avec mes amis, quoi. Donc c'est possible, les deux sont possibles. Voilà, je me suis un peu embarqué ailleurs à la fin, mais le cœur a parlé.
Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil, ma jeunesse, c'était voir les gens, même ma sœur, tu vois, qui allait en boîte et tout. Moi, j'étais en mode, mais putain, mais je me reconnais pas du tout dans cette manière de vivre. Je respecte, les gens font ce qu'ils veulent. Hein.
Oui,
mais moi, le soir, c'était, ouais, tu veux sortir, on va boire un coup. Non, non, ce soir, je suis avec mon ordi, je suis très bien, il n'y a pas de problème. Et je restais avec mon ordi. Je me souviens même, il y a des jours de l'an où mes parents, ils sortaient. Il nous laissait seul avec ma sœur, et des fois mon père il venait, il me disait, mais t'es sûr tu veux pas inviter des gens, ou tu veux pas faire des trucs, tu veux pas sortir un peu aussi et tout, si tu veux on prend ta sœur et on te laisse un peu sortir. J'étais là, mais non non, juste laissez-moi devant mon ordi, ça me va très bien de faire mon jour de l'an tout seul devant mon ordi. Et c'est vrai qu'ils avaient du mal à comprendre ce que je comprends, hein, mais il y avait cet esprit de j'ai ma petite vie aussi sur internet, tu vois, avec mes potes, et ça me convient super bien. Et du coup, ouais, bah, pareil que toi, j'invite les gens vraiment à voir ce que ça fait de partager une expérience vidéoludique avec des amis, avec même des autres êtres humains que tu connais pas, parce que bah, quand t'es en jeu, même avec des inconnus, vous êtes là pour la même raison, c'est de souffler un coup et c'est de prendre du plaisir. C'est la seule raison pour laquelle t'es là. Alors que dans le business, par exemple, t'es dans un esprit de, bah, y a de l'enjeu, il faut faire de l'argent, il y a des partenaires, enfin, c'est compliqué l'entreprise. Mais juste un jeu, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça, moi, et t'en fais partie, mais j'ai des amis, la plupart ont été clients avant aussi d'être amis. À chaque fois, je leur dis, est-ce que tu as une play? Est-ce que t'es chaud, on joue le soir, tu vois? Est-ce qu'on fait un truc? Parce que je veux créer aussi de la proximité et j'ai plus envie d'avoir de clients, j'ai envie d'avoir un max de potes, en fait. Et c'est tout mon travail, c'est de se dire comment je peux amener mes clients au statut de potes. Donc pour ça, j'utilise le jeu vidéo. Et ces potes, par le jeu vidéo, deviennent des super amis que après je vais voir en vrai, avec qui je vais passer du temps, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop cool et tellement important en plus. Le jeu vidéo, souvent, on dit que ça isole. Moi, je trouve que ça rapproche aussi. Si tu sais faire la part des choses et que tu sais quand même sortir un
C'est
peu de chez
ça.
toi. Mais voilà, ça rapproche. Moi, pour le moins, le jeu vidéo, c'est salvateur de ouf. Donc, ouais, complètement aligné avec ta petite digression.
S'il devait y avoir une meilleure version de soi, pour moi, c'est vraiment, si elle devait exister, hein, bah, ce serait quand on joue, en fait. Je trouve que les rapports de qualité, tu découvres vraiment des humains quand ils s'amusent, je trouve.
Ouais, de fou.
Moi, les gens que j'ai pu voir dans le business ou en client, en jeu, c'est parfois je vois des personnes différentes, je me dis, ah ouais. Enfin, j'aurais jamais pu voir ça de cette personne sans jouer avec. Je me dis, c'est génial, c'est incroyable ce qu'elle est en fait. Vas-y, peut-être en client, elle était un peu chiante, ou c'était bizarre. Et là, d'un coup, tu découvres toute facette, tu dis, waouh, mais c'est fou tout ce que ces gens peuvent être, en fait. Et tout ce dont on se prive quelque part, du coup, parce qu'on ne se laisse pas forcément être cette personne qui s'amuse dans la vie de tous les jours. Bah, suffit de sortir dans la rue et de voir tout le monde qui tire la gueule, d'ailleurs.
C'est clair. C'est un peu comme l'alcool en fait. Hein. Sans la partie tu te bagarres en boîte ou des conneries comme ça, mais
C'est ça.
ça fonctionne un peu comme l'alcool où bah,
C'est
t'es
vrai.
débridé, tes émotions elles sont exacerbées, tu sors un peu plus des blagues de merde, tu rigoles plus, tu t'énerves plus vite aussi. Il faut le dire aussi quand même, quand tu te tapes un boss pour la 50e fois et que tu perds à ça.
C'est clair.
Forcément, ça met les nerfs, on sait de quoi on parle. Mais voilà, pour moi, c'est super important aussi d'avoir ce côté proximité. Ouais. Alors, je suis un peu triste parce que du coup, on arrive sur le dernier point, et c'est un dernier point qui est beaucoup moins joyeux que ça, mais tout aussi important quand même, je trouve. C'est que pour moi, j'ai appris dans ce jeu que survivre, c'est aussi une manière de vivre pour certaines personnes. Moi, c'est un jeu qui m'a aidé à comprendre les gens qui sont tristes, les gens qui sont dépressifs, les gens qui sont mal dans leur peau, les gens qui vivent mal leur existence, en fait. Et PUBG, en fait, tu regardes les personnages. Bon, c'est des personnages qui sont très, 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 très banals. Ils n'ont pas de personnalité spécifique, ils ne parlent même pas. À la limite, ils font ouf quand ils se prennent une balle. Bon, voilà, c'est le seul bruit qu'ils peuvent faire. Mais si tu imagines, entre guillemets, alors ce n'est pas le cas, mais si tu imagines un lore dans ce jeu, un univers dans ce jeu, bah, tu te dis que voilà, il y a des personnes, leur vie consciemment choisie, c'est de survivre. Et ils se complaisent dans ça, en fait, dans le jeu. Et quand tu regardes le monde réel, il y a plein de gens, ils sont dans la même situation, ils se complaisent à survivre. Ils se complaisent à survivre financièrement, ils se complaisent à survivre relationnellement, émotionnellement, même physiquement. Ils se disent, bon, bah, c'est de la survie. De toute façon, la vie, c'est un combat. La vie, c'est une guerre. La vie, c'est... Voilà, ils vont sortir tout un vocabulaire belliqueux. Et l'idée, c'est de se dire, mais dès lors que c'est un choix conscient de leur part, conscient ou inconscient, mais quand c'est un choix, tu perds du temps à essayer de les sauver. Et moi, j'ai eu un pote dépressif qui, aujourd'hui, bah, je ne suis plus ami avec lui, pour des raisons naturelles, en fait. C'est juste que bah, on s'est éloigné parce que bah, je voyais que il avait choisi une façon de vivre qui n'était pas corrélée à la mienne. Bah, j'ai compris ce mec-là grâce à ce jeu-là parce que je me suis dit, en fait, c'est un choix qu'il a fait. Inconscient, probablement, parce que c'est une dépression, la dépression, c'est une maladie, mais c'est un choix qui a été fait quelque part à un moment donné. Il se complaît là-dedans et je peux rien faire pour lui. Et c'est pareil pour 100% des gens qui sont autour de toi, de tes clients, de tes partenaires, de ta copine, de tes potes, de tout ce que tu veux. Quand tu es avec quelqu'un qui a choisi de survivre financièrement, qui se dit, bah, de toute façon, on ne peut pas gagner d'argent, c'est dur d'être riche, c'est inaccessible pour moi, j'y arriverai pas, j'arrive pas à investir, j'arrive pas à acheter, j'arrive pas à ceci, à cela. Il a choisi la survie. Relationnellement, c'est pareil. Tu prends les gens qui disent ouais, mais moi j'ai toujours des pervers narcissiques, les mecs c'est tous les mêmes, les meufs c'est toutes des putes, etc. Pareil, c'est des gens qui ont choisi de survivre relationnellement. Émotionnellement, c'est la même chose. Ouais, à chaque fois, je suis déçu, à chaque fois, les gens ils me blessent, à chaque fois, les gens ils me font du mal. Tu as choisi d'attirer que ça en fait. Et j'ai vraiment compris ça grâce à ce jeu parce que bah, tu as vraiment cette notion de tu vis le choix que tu fais de ta vision de la vie. C'est un peu bizarre comme phrase, mais tu vis ce que tu choisis de la vie en fait. Si tu crois que la vie c'est que des gens qui vont te décevoir et te faire du mal, tu auras que ça. Si tu crois que la vie c'est super difficile de faire de l'argent, tu feras jamais beaucoup d'argent. Si tu crois que la vie, c'est de te faire baiser par tout le monde, tu te feras baiser par tout le monde. Et si tu crois que la vie, c'est que des gens qui sont super sympas, bah, tu vas rencontrer plein de gens super sympas. Pas que ça, mais forcément, tu auras beaucoup plus de proportions. Et donc voilà, j'apprends avec ce jeu, pour terminer, que bah, survivre est un mode de vie, qu'il faut respecter aussi ce mode de vie, et que surtout, il ne faut pas perdre son temps à essayer de sauver les gens qui ont choisi ce mode de vie-là. Ils sont comme ils sont, ils se complaisent là-dedans, et attention à ne pas tomber justement dans ce syndrome de sauveur qu'on peut retrouver assez largement dans notre univers de coach, quoi. Voilà pour ça.
Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est un point un peu plus sombre, mais c'est un point hyper important, je trouve. Comment ? En fait, les gens s'identifient à ces expériences-là, et moi, j'ai envie de clarifier un truc pour pas que les... C'est pas facile à entendre, tu vois, de dire que quelqu'un a choisi, consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, nous, quand on coach, on s'en rend bien compte. Enfin, si quelqu'un nous dit qu'il a vécu tel truc et qu'on lui dit quelque part, c'est qu'il l'a choisi, c'est dur à entendre. Mais pour que les gens ne s'emballent pas trop vite ici, j'ai envie de dire en fait, c'est que ils ont tellement d'attention sur cette vision des choses que leur cerveau ne capte que ça, ne capte que des infos par rapport à ça. C'est en ça que c'est un choix, conscient ou inconscient. Après, on ne voit pas tout, le cerveau traite des milliers d'informations, mais du coup, ils sont branchés qu'à ça. Pourtant, il y a des gens, et c'est pas pour faire culpabiliser qui que ce soit et ni mettre des échelles de principes ou de valeurs, mais il y a quand même des gars, j'ai oublié le nom de cet homme, il y a un gars qui a traversé la Manche à la nage, il lui manquait un bras, il me semble
bras
avec
jambes.
Un moignon, deux bras, oui voilà, bah, il manquait tout en fait.
Ouais.
Et il l'a fait. C'est une question de choix quelque part. Il a voulu le faire. Il y est allé. Il s'est pas concentré sur, bah, j'ai pas les bras, les jambes, techniquement, je peux pas nager. Il s'est concentré sur, je veux le faire. Il s'est concentré sur comment il peut le faire. Et c'est une grosse différence. Et c'est ça dont les gens se rendent pas compte, que juste ouvrir tes horizons, c'est un vrai choix. Et c'est ce qui peut tout changer. Et c'est vrai que quand on essaie de sauver les gens, qu'on fait le choix de rester là-dedans, on perd du temps, on perd de l'énergie. Alors, ça n'empêche pas tout le monde d'essayer, chacun est libre de lui-même, mais c'est clair que ça rend rarement service. Donc si vous voyez des gens comme ça, essayez d'ouvrir leur monde, mais n'essayez pas de les sauver.
Je crois que c'est Philippe Croizon dont tu parles.
Oui, c'est ça, Croizon, oui. Ouais.
Croizon. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez inspirant quand même, hein. Le mec...
Ah ouais, c'est terrible.
Le mec porte ses couilles, faut le dire, porte ses couilles.
Ouais, et sans les bras. Excusez-moi de la vanne, mais sans les bras.
Non, ok, bah écoute.
Perso, ouais. Je l'ai déjà bien vu dans la famille de mon ex. Il y avait des relations dysfonctionnelles et faisait tout pour les changer, ces personnes. Et quand elle a lâché et qu'elle a vécu sa vie en s'épanouissant, elle, c'est là qu'ils ont commencé à changer. Parce qu'ils pouvaient la voir, ils voyaient des exemples, mais on les poussait pas à le faire, quoi. Donc, ils ont choisi eux-mêmes de s'ouvrir à autre chose. Voilà, je voulais donner un truc concret. Les gens comprennent comment ça peut marcher.
Très bon exemple, très, très bon exemple. Eh bien, écoute, on arrive sur la fin de ce nouvel épisode de Leçon de Gamers. C'était trop cool. J'ai bien kiffé aussi. C'était bien PUBG. Très intéressant. Et je ne pensais pas pouvoir sortir autant de trucs d'un jeu qui peut sembler... Ouais, c'est un jeu qui peut sembler très stupide. Bon, voilà, on met 100 mecs, ils vont se battre et on garde le dernier. Non, il y a beaucoup de choses à apprendre. On va passer rapidement sur les petites recommandations. Est-ce que tu as des recommandations, toi, de Battle Royale? Je pense qu'on va tomber sur les mêmes, hein, plus ou moins.
Faut que je réfléchisse un peu, parce que ces temps-ci, j'en ai pas trop fait, à part PUBG. Donc, à la limite, je vais te laisser donner les siennes d'abord, parce que là, je sens que ça cogite.
Alors, ça me fait chier de recommander ce jeu, mais c'est un bon exemple du truc, c'est Fortnite, malheureusement. J'aurais recommandé Fortnite, voilà, je l'ai fait, putain, quelle honte.
J'ai hésité un peu aussi, mais...
J'aime pas Fortnite, mais c'est un bon Battle Royale. Voilà, c'est un bon Battle Royale qui a rien inventé. Par contre, Fortnite, c'est un super business model. Pour le coup, ça, je peux vraiment pas lui enlever. C'est un exceptionnel business model. Un business model exceptionnel, plutôt en français. Il est vraiment incroyable à ce niveau-là. Maintenant, c'est très enfantin, c'est très cartoon, c'est pas foufou. Mais voilà, c'est un Battle Royale. En termes marketing, c'est un exemple. En termes gameplay, ouais.
J'allais dire, si je me permets, sur Fortnite, en fait, peut-être ça peut mieux correspondre à des gens qui n'aiment pas le sang, qui ont envie de vivre ce genre de jeu, mais avec une vision plus légère. PUBG peut sembler plus réaliste. Donc peut-être si vous êtes sensible à ça, Fortnite, le côté plus léger sera plus cool. Après, il y a l'aspect construction, mais...
Bien vu, bien vu. Oui, oui, il y a l'aspect construction. Effectivement, ils ont rajouté ce truc-là. Donc Fortnite, c'est un Battle Royale où tu construis des bâtiments, des fortifications, des tours, des immeubles, des maisons, etc. Tu peux te cacher dedans et tu peux te baser sur ce que tu as créé pour accentuer tes chances de gagner, de faire ton top 1. Donc ça, c'est pour PUBG, pour Fortnite, du coup, qui est beaucoup plus axé sur les plus jeunes d'entre nous. Pour ceux qui veulent le plus hardcore, le plus réaliste possible, il y a Escape from Tarkov, qui est, je crois, seulement sur PC. Où là c'est vraiment tu prends une balle dans le pied, ton personnage il boite, tu prends une balle dans la jambe, tu marches moins vite, tu prends une balle dans le bras, tu tires moins bien, tu prends une balle dans la tête, que t'aies un casque ou pas, tu meurs. Donc c'est vraiment un jeu qui est très 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 hardcore, qui est beaucoup moins Battle Royale mais qui est tout aussi hardcore, où là la typologie c'est plutôt des équipes qui rentrent sur une map, qui doivent choper des ressources et qui peuvent se barrer avec après. Donc c'est un business model qui a un business model, un gameplay model on va dire, plutôt, qui est très très intéressant aussi. On a Apex Legends qui est un petit peu le mix entre PUBG et Fortnite, donc c'est moins réaliste que PUBG mais c'est plus réaliste que Fortnite, donc c'est plutôt sympa, qui a très bien marché aussi. Et on a le plus connu à côté de Fortnite, c'est le fameux Warzone, donc c'est Battle Royale par Call of Duty, et là on a plus 100 personnes, on en a 152, et ils ont rendu la difficulté et l'accessibilité de PUBG un peu plus facile, dans le sens où ils ont mis une option goulag, où en gros quand tu meurs, tu te retrouves dans un fameux goulag face à un autre joueur qui est mort lui aussi dans la partie, et celui qui gagne son face-à-face peut retourner sur la partie, et on a droit à un goulag chacun, donc en fait t'as un petit peu un joker, ce que je trouve assez sympa. Donc voilà, donc pour les recommandations, je reprends rapidement. On a Fortnite, on a Call of Duty Warzone qui est gratuit, Fortnite aussi. On a Escape from Tarkov qui est une exclusivité PC qui est payante, je crois. Et on a Apex Legends qui est aussi gratuit. Les Battle Royale sont un business model très, très, très free-to-play généralement, donc vous n'allez pas débourser grand-chose. Voilà pour mes recos. Dis-moi si tu en as qui apparaissent, sinon on peut passer sur la conclusion. De conclusion.
Non, du coup, parce que Fortnite, je l'envisageais, mais pareil, comme toi, je l'assumais pas trop. Et puis, il n'y avait que Apex, sinon. J'ajoute juste que Apex oblige à la coopération. Parce que si j'ai bonne mémoire, en fait, on est forcément en équipe, en trio.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai vraiment bonne mémoire. Et il y a le principe de les personnages ont des caractéristiques, parce que c'est Apex Legends. Et tu as aussi le côté, je choisis un personnage qui peut me ressembler, ou qui a des caractéristiques que j'aime bien, ou des statistiques. Ils ont tous des esthétiques différentes qui te permettent d'expersonnaliser un peu ton expérience de joueur.
Carrément. Nickel. Est-ce qu'on est bon, Théo, là-dessus?
Oui.
Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce petit épisode?
Je l'ai trouvé très bien. Je trouve que, perso, j'ai été surpris quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais dire. Au début, je ne voyais pas trop ce que j'allais dire depuis PUBG, qui peut sembler un jeu un peu vide. J'ai été surpris de voir tout ce que je pouvais avoir envie de dire. Et je trouve que niveau spirituel, il m'a bien fait réfléchir, tu vois. Je pensais pas que ça irait jusqu'au seuil de Ghost of Tsushima, pour le coup. Et pour autant, j'ai bien réfléchi, finalement. Donc, c'est impressionnant comme un jeu vidéo peut te faire réfléchir. Donc, je le découvre.
C'est pour ça, j'ai hâte des prochains épisodes. En vrai, ça va être trop, trop bien. En tout cas, pour ceux qui sont en live, du coup, je vous dis déjà au revoir. Donc, hop, Facebook, à la revoyure. On se retrouve la semaine prochaine à 11h en live. Voilà, donc Facebook, on est bon. Et pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, donc vous avez toutes les infos de Théo et les miennes en description de cet épisode, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur tout ce que vous voulez. Il y aura tous les liens dans la description. Quoi d'autre? Un grand merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je crois qu'on est sur un podcast de presque 2 heures, hein, encore une fois. On a fait un bel épisode, 1h45 si je ne m'abuse. Et c'était trop bien, c'était trop trop bien. Donc n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos avis, et surtout à nous donner aussi des suggestions de jeux que vous aimeriez voir passer dans le podcast. Ça peut être vachement cool d'arriver sur des jeux que vous avez fait pour pouvoir échanger avec nous. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur Facebook en live pour interagir avec nous. Vous avez été très timide aujourd'hui sur PUBG, mais c'est pas bien grave, ça nous arrive. Et écoutez, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Pensez à vous abonner, à aller suivre Monsieur Théo Nelson sur Facebook et moi-même. et on se retrouve très très vite. Salut à tous les amis.
À la prochaine.